Vous êtes sur RTL.
À partir de 5 heures.
5 heures.
5 heures, oui. On va dormir une demi-heure de plus.
On va avoir la grasse matinée, vous imaginez.
C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces petits joueurs?
Je sens qu'on va se faire réveiller plutôt.
Moi, je vous appelle.
De Stéphane plutôt. Carpentier.
Ouais, c'est promis. Tout Bonne ça journée. Pour faire la bamboche ce week-end parce que c'est le grand retour des discothèques.
On pas attendre ce week-end, on y est tout de suite là.
Ça m'étonne pas. Bon week-end à vous, 5h donc, lundi matin, Dominique Tenza, Marina Giraudeau et toute l'équipe. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, on a plein de choses à vous raconter. On est ensemble jusqu'à 9h30, nous sommes vendredi, il est 7h du matin.
RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
Ça commence par le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Et bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc, ce matin, les fêtards revivent.
Eh bien oui, on le disait, les boîtes de nuit sont de retour après plus d'un an de fermeture. Un peu d'inquiétude face au variant Delta, mais la musique et la danse l'emportent. Reportage dans un instant. Pour entrer en discothèque, il faut un pass sanitaire. De plus en plus de faux circulent. Un hôpital de Strasbourg porte plainte pour contrefaçon. 2 ans de prison ferme pour l'homme qui avait agressé un livreur noir à Cergy-Pontoise. Il était jugé notamment pour apologie de crimes contre l'humanité. À suivre également Paris au ralenti, limitation à 30 km/h dès la fin du mois d'août. Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus jusqu'au Mondial 2022. Et puis un jeune prodige belge qui va sûrement vous étonner.
Après le journal La Politique avec Olivier Bost.
Et l'été en politique, ça sera l'été des planqués, des sournois et des agités.
Allons bon, à tout à l'heure Olivier.
RTL Matin.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas bougé votre corps sur le dance floor? On s'en souvient même plus. Hein. Ça fait des mois forcément, 15 mois au moins. 15 mois que les discothèques sont fermées pour cause de pandémie, parce que c'est un lieu à haut risque. Mais aujourd'hui, enfin, la musique et la danse sont de retour. Vincent Serrano, vous avez assisté au dernier préparatif au duplex dans le 16e arrondissement de Paris.
Il suffit de descendre des marches illuminées en rouge sous des lumières turquoises pour arriver dans l'immense salle où est en train de s'échauffer Vince, le DJ. Alors on va entrer dans sa cabine. Vince, c'est beaucoup de travail avant l'ouverture.
Il y a tout le matériel à vérifier parce qu'on a été fermé pendant pas mal de temps. Vérifier que tout fonctionne bien, on peut pas se permettre d'avoir la moindre erreur le jour de la réouverture.
Et puis voir si on n'est pas un peu rouillé quoi.
Ça, on sait quand même, on a quand même beaucoup travaillé. Là on a vraiment hâte de rouvrir.
Vous pouvez me montrer si vous n'êtes pas rouillé?
Oui, bien sûr.
On sent quand même que ça vous a manqué.
Le public, le contact avec les gens, vraiment, ça manque. De voir les gens danser, de les voir s'amuser, ça c'est un truc qui a manqué.
Alors on ressort de cette cabine pour retrouver Cyril et Fred, les directeurs de l'établissement, c'est ça, sur la piste de danse, tout seul pour l'instant, mais vous êtes déjà en train de danser.
Depuis 17 mois, bien sûr, content de rouvrir. Tout a été écarté, on est sur une distance à peu près d'un mètre sur les groupes de table. Les 750 personnes seront sur 2 salles et donc devraient être assez espacées les uns des autres.
Un peu difficile quand même sur la piste de danse.
Pas trop de coller serré, oui.
Puis avoir un petit peu cette musique comme ça qui nous donne un parfum de liberté et je pense que ça nous a manqué déjà depuis beaucoup trop longtemps.
Une liberté à laquelle pourront goûter 750 personnes ici ce soir et je peux vous dire une chose, c'est que le DJ les attend de pied ferme.
Signé DJ Serrano pour RTL. Le décret d'application de la réouverture est paru cette nuit. Sans attendre, certaines boîtes ont rouvert leurs portes dès minuit. Il y a peut-être quelques fêtards qui terminent leur soirée là en ce moment. Les discothèques rouvrent sans masque. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, mais avec une jauge et le pass sanitaire. Un sésame devenu tellement précieux que des faux circulent sous le manteau à prix d'or. À Strasbourg, le groupe hospitalier Saint-Vincent a ainsi découvert que des imitations de ses certificats de vaccination circulaient sur Internet, vendues à 350 euros. Il a porté plainte. Écoutez, Frédéric Liret, le directeur de l'hôpital.
C'est tellement grossièrement fait qu'on voit que c'est falsification extérieure, probablement avec des outils bureautiques très basiques et qui ne correspond à rien à ce qu'on fait. On avait pris une précaution supplémentaire qui est d'avoir dans la trame du papier, c'est-à-dire pas imprimé, vraiment dans la trame fait par un imprimeur, d'avoir un filigrane. Et ça, le faussaire ne peut pas le savoir. Et quand même il le saurait, il ne peut pas le reproduire. Je le mets à la lumière et vous voyez, en haut et en bas et ailleurs où je ne vous dirai pas, il y a un mot qui apparaît très clairement, en transparence. Ouais. Ce qui veut dire que toute personne qui utilise ces faux est très très facilement repérable. Ça fait partie des choses qui ont particulièrement intéressé la police. J'ai entendu dire que ça coûtait 350 euros. Pour un faux grossier où on risque quand même jusqu'à 45 000 euros d'amende et une peine de prison avec sursis.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le directeur de l'hôpital Saint-Vincent de Strasbourg au micro RTL de Yannick Holland. Sachez que Pfizer va demander une autorisation dans les semaines qui viennent aux États-Unis et en Europe pour une troisième dose de son vaccin. Un rappel à destination des personnes les plus fragiles.
Venons-en à ce signe fort envoyé par la justice. L'homme qui avait agressé un livreur noir à Cergy Pontoise est condamné à 2 ans de prison ferme.
Oui, c'était fin mai devant un restaurant. Le livreur avait été insulté et frappé. Cette scène avait été filmée par une voisine et c'est ce qui avait permis d'identifier l'agresseur. Il a été reconnu coupable de violence, injures à caractère raciste et aussi apologie de crimes contre l'humanité pour sa référence à l'esclavage. La peine est exemplaire, Alexandre de Saint-Aignan.
Ah oui, la sanction est particulièrement forte et l'un des avocats du livreur agressé, maître Benjamin Sédon, s'en félicite.
24 mois d'incarcération ferme, les faits ont été graves, la peine est tout aussi grave.
Alors il faut dire que le prévenu a déjà un gros casier judiciaire multirécidiviste pour des affaires de violence. Dans le box du tribunal, il avait d'ailleurs bien du mal à garder son calme durant l'audience. Regard noir, les poings contre la vitre, face à la victime et à la voisine qui avait filmé la scène ce soir-là avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Depuis, elle dit vivre la peur au ventre. Le procureur en tout cas l'a félicité pour avoir accompli son devoir de citoyenne.
Moi, ça réconforte, ça me prouve que voilà, j'ai pris la bonne décision et que si c'était à refaire, bah, de ne pas hésiter en fait. Là, il va en prison, il a ses contacts, comme il dit, dehors. Je ne sais pas qui va venir toquer à ma porte dans ces jours-ci ou qui va me surveiller ou si je suis surveillée.
À l'issue de sa peine de prison ferme, le prévenu aura l'interdiction de séjourner dans le Val d'Oise.
Un récit RTL signé Alexandre de Saint-Aignan. Les deux pilotes d'Air Cocaïne acquittés en appel. Une décision inespérée pour Bruno Audos et Pascal Fauré après 8 années de combat judiciaire. En première instance, il y a 2 ans, ils avaient été condamnés à 6 ans de prison et le parquet avait requis la même peine cette fois-ci. 700 kilos de drogue avaient été embarqués dans leur jet, mais ils ont toujours assuré qu'ils n'étaient au courant de rien.
7h06, Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer avec Paris limité. Paris limité à 30 km/h, c'est la guerre de la voiture dans la capitale qui est relancée. À tout de suite.
RTL Matin.
À 7h08, la suite du journal avec Isabelle Choquet. La nouvelle a pris de court tous les automobilistes parisiens. Dès la fin du mois d'août, la vitesse sera limitée à 30 km/h.
Oui, dans toute la capitale, ou presque, à l'exception du périphérique, des boulevards des Maréchaux et de certaines grandes artères, notamment les Champs-Élysées, qui restent limitées à 50. L'adjoint au transport, l'écologiste David Belliard, assume.
On va passer quasiment l'intégralité de Paris avec cette baisse de la vitesse. Certains axes vont continuer à être limités à 50 km/h. Le boulevard des Maréchaux qui fait le tour de Paris, les Champs-Élysées vont rester à 50 km/h. Mais pour le reste, effectivement, d'autres villes l'ont fait et ça a des avantages qui sont des avantages extrêmement importants, notamment en termes de sécurité pour les piétons, de sécurité pour les cyclistes, de sécurité pour celles et ceux qui aujourd'hui vivent et travaillent à Paris.
Un propos recueilli par Arnaud Touche, des arguments réfutés point par Pierre Chasseret, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes.
Tous les arguments qui sont amenés par la mairie de Paris sont faux. On nous parle de pollution sonore, ça ne tient pas. Pourquoi ? Eh bien parce que les émissions sonores, vous avez beau baisser de quelques kilomètres heure les vitesses pratiquées, ça ne changera rien, c'est imperceptible pour l'oreille humaine. Ensuite, on nous parle de pollution tout court, c'est faux aussi. Plus les vitesses sont basses, en dessous de 80 km/h, et plus vous émettez de polluants. Franchement, il y en a marre. La mairie de Paris se rend, à mon avis, totalement ridicule parce que tout le monde sait que ça ne servira à rien. Donc franchement, c'est une mesure qui sert à rien du tout.
Pierre Chasseret au micro RTL de Christophe Bourouf.
Le football, s'il y avait un doute, il est maintenant levé. Didier Deschamps reste le patron des Bleus jusqu'au Mondial 2022 au Qatar.
Le patron de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, l'a confirmé hier après une entrevue avec le sélectionneur. La question a été réglée en 3 minutes, dit-il. Pour autant, Philippe Sanfourche, ça ne veut pas dire que l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro a été balayée d'un revers de main.
Non, cette entrevue ne s'est pas résumée à une simple formalité. Il fallait qu'il y ait explication et il y a eu explication. Noël Le Graët, pour la première fois absent physiquement sur une grande compétition, s'était fait remonter au préalable toute une série d'informations sur la vie de groupe, les petits couacs logistiques, les choix discutables d'hôtels, certes attribués par l'UEFA, mais que la fédération aurait pu mieux négocier. Autant d'éléments qui ont confirmé quelques ratés, mais rien qui puisse remettre en cause les compétences du staff, à commencer par le sélectionneur Didier Deschamps, dont l'envie et la motivation restent intactes. Son autorité également, et c'est peut-être là le point central. Le président de la fédération a beaucoup consulté auprès des joueurs pour avoir très vite la certitude que le groupe restait soudé derrière son sélectionneur. Dans ces conditions statu quo, pas de changement non plus du staff médical ou de la préparation physique. Confiance maintenue et prochain bilan en 2022 après la Coupe du Monde au Qatar.
Philippe Sanfourche. C'est désormais officiel, les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront essentiellement à huis clos. Mesure de prudence des organisateurs face au rebond de l'épidémie. L'état d'urgence sanitaire a été rétabli dans la capitale japonaise dès lundi, et ça jusqu'au 22 août. Et puis sur le Tour de France, c'est l'Allemand Nils Polit qui a remporté la 12e étape hier à Nîmes, après une échappée en solitaire de 12 km. Tadej Pogacar est arrivé un bon quart d'heure après lui, mais il conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, 13e étape entre Nîmes et Carcassonne, près de 220 km en pleine. Peut-être une occasion pour Cavendish d'égaler le record des victoires d'étape d'Eddy Merckx. On termine avec un phénomène, Laurent. Laurent vient de décrocher sa licence de physique à l'université d'Anvers en Belgique avec la meilleure note de sa promo et en suivant aussi quelques cours de master en parallèle. Ce qui est spectaculaire, c'est que Laurent n'a que 11 ans. Il affiche un QI de 145. Il est entré au collège à 6 ans. Il a eu son bac à 8 ans. Les Belges le surnomment le petit Einstein.
Je suis évidemment flatté que l'on me compare à Einstein, mais je pense sincèrement que chaque personne est unique. Je suis Laurent, Einstein, c'est Einstein. Désormais, je veux faire un master en physique quantique pour être précis. Mon but, c'est l'immortalité. Ce que j'entends par là, c'est être capable de remplacer un maximum de parties du corps humain par des organes artificiels. Et la première étape pour arriver à cela, c'est d'étudier la physique. Mais il me faudra encore faire beaucoup d'études pour arriver à cela.
Laurent, jeune prodige belge, propos recueillis par nos confrères d'M6.
Isabelle Cabourg pour les courses.
Et les pronostics de Jordan Philippi, le 3, le 7, le 2, le 15, le 5, le 12 et le 9. 3, 7, 2, 15, 5, 12, 9. La dernière minute de Jordan, c'est le 15. Gypsy des Cahiers.
Bien. Il y a du talent à la réalisation ce matin. Oui. Ouh là là, on colle à l'actu. C'est formidable. Isabelle revient tout à l'heure à 8h pour vous informer. 7h13, bonjour Olivier Bost.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Olivier, vous nous parlez ce matin de l'été des planqués, l'été des agités.
Oh oui, bon, tout le monde a le droit à des vacances, hein, et c'est très bien ainsi. Le mythe des dirigeants qui n'arrêtent jamais, c'est fatigant pour tout le monde. Cette année, il y aura un mois de pause entre le dernier Conseil des ministres et celui de la rentrée. Se reposer, penser à autre chose, dormir, c'est pas mal quand vous devez prendre des décisions importantes, ça peut éviter de faire des bêtises. Mais cet été sera aussi celui des planqués et des agités, de tous ceux qui ont en tête, et ils sont nombreux, l'élection présidentielle. Il y a ceux qui l'assument, qui sont déclarés, et puis il y a les autres.
Alors qui sont, Olivier, ceux que vous traitez de planqués ?
Alors Éric Zemmour, par exemple, bien sûr, comme le raconte Paris Match cette semaine, il a pris sa décision d'y aller, il a trouvé le nom de son parti, collecte de l'argent, fait travailler une équipe, mais il ne dira rien avant la sortie de son prochain livre, Les affaires avant tout. Éric Zemmour, c'est le trouble fait entre l'extrême droite et la droite.
Et il y en a d'autres comme ça ?
Alors, qui se prépare dans l'ombre ? Oui. Le Canard enchaîné nous a appris cette semaine que la tribune des 200 personnalités qui appellent Anne Hidalgo à être candidate a été directement pilotée depuis la mairie de Paris. Nous avons déjà vu plus spontané. Le Monde raconte un déjeuner où la maire de Paris a signifié fort peu aimablement au patron du PS qu'il devrait la suivre sans faille. Pas question de faire la danse du ventre aux écolos. Des candidats écolos qui n'auront qu'une obsession cet été, bourrer la liste des votants à leur primaire. Parce qu'il y a une bizarrerie, nous connaissons les candidats, ils devaient se déclarer au début du mois, mais il est encore possible jusqu'à septembre de s'inscrire pour choisir entre Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho.
Et chez les Républicains, Olivier Bost, l'été sera agité là ?
Alors là, il s'agit de faire trébucher Xavier Bertrand. Valérie Pécresse a montré un peu plus d'envie que d'habitude dans une interview dans La Provence cette semaine. L'heure des femmes est venue, dit-elle. La présidente de la région Île-de-France fera un tour de France cet été, comme un certain président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. L'un et l'autre ne seront plus encombrés par l'ombre de François Baroin. Le maire de Troyes a enfin dit à presque tout le monde, mais pas encore dans un micro, qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Lui pourra rester planqué tranquillement.
Et quid alors du président de la République sortant, Emmanuel Macron ?
Alors son tour de France à lui, qui devait faire une dizaine d'étapes, en fera au final deux fois moins. Il va annoncer son nouvel agenda de rentrée la semaine prochaine avec deux priorités résumées par un conseiller : tirer la croissance et casser l'épidémie. tout un programme qui devrait aussi animer les mois qui viennent. Si vous voulez bien, on en reparlera à la rentrée.
Ce sera avec plaisir, merci. Édito politique signé Olivier Bost. Olivier Bost qui est tout sourire évidemment ce matin avec l'actualité du jour, c'est le retour des boîtes de nuit. Donc il fait ce choix.
Ce soir, Boris, événement, c'est Soirée Disco.
Disco pour Olivier Bost et pour Philippe, l'un de nos chefs, c'est plutôt slow, slow Macumba. Sans doute une histoire de génération, tout ça. Chacun son truc. Dans un instant, la brigade RTL, justement sur la réouverture des discothèques. À tout de suite.
Stéphane Carpentier. RTL Matin, 7h-9h30.
Bon réveil à tous, 7h18, elles étaient les premières à fermer, elles seront les dernières à rouvrir les discothèques. Elles étaient fermées depuis le 14 mars 2020, il y a près d'un an et demi, mais une réouverture selon quelles conditions? On voit tout ça en détail avec notre brigade RTL. Bonjour Benjamin Boucriche.
Bonjour.
Alors à quoi va ressembler le protocole?
Alors ça va être un peu différent de l'entrée habituelle dans les boîtes de nuit. D'habitude, vous faites la queue, le vigile contrôle la façon dont vous êtes habillé, il regarde votre chemise, vos chaussures, etc. Mais à partir de ce soir, il regardera également votre passe sanitaire. L'accès à la discothèque sera possible uniquement si vous êtes complètement vacciné depuis au moins 2 semaines. Sinon, vous devrez présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 2 jours. Ce passe sanitaire concerne normalement les événements de plus de 1000 personnes. Les discothèques sont donc l'exception. Et puis concernant les jauges, si la boîte de nuit est en intérieur, elle pourra recevoir jusqu'à 75% du public. Si elle est à l'extérieur, pas de limite.
Le masque obligatoire ?
Non, simplement recommandé.
Donc on pourra danser sans masque ?
Oui, c'est bien ça. Vous le portez seulement si vous en avez envie. Il y a quelques semaines, le gouvernement prévoyait le port du masque sur la piste de danse. Mais bon, est-ce que vous voyez vraiment en train de porter un masque entre une vodka pomme et une danse endiablée sur cette musique ?
Compliqué, effectivement, Benjamin. Selon les professionnels, ce protocole sanitaire, il est tenable ?
Absolument pas. Je discutais hier avec Patrick Malveste, le président du syndicat national des discothèques, et il me disait que ces règles sont tout simplement inapplicables. La principale raison, selon lui, c'est le pass sanitaire. Très peu des 18-24 ans, le cœur de cible des discothèques, ont reçu 2 doses du vaccin. Ils sont seulement 20% aujourd'hui, soit 1 jeune sur 5.
Effectivement, alors comment on fait ?
Eh bien, certaines boîtes de nuit vont installer des barnums devant l'entrée. On pourra y faire un test antigénique avec un résultat promis en 15 minutes, donc assez rapidement. Mais les patrons des boîtes de nuit ont peur que ce dépistage se passe mal, notamment en pleine nuit avec des clients alcoolisés.
Alors, avec ces nombreuses contraintes, Benjamin, est-ce que les discothèques seront nombreuses à rouvrir ce soir ?
Pas vraiment. Selon Patrick Malveste, le patron du syndicat, 3/4 des 1500 discothèques resteront fermées ce soir. Selon lui, ce sont surtout les boîtes de nuit saisonnières qui sont essentiellement celles situées dans les endroits touristiques comme le bord de mer qui ouvriront ce soir.
Brigade RTL signée ce matin, Benjamin Boucriche, merci à vous. Je souligne que la chanson qu'on a diffusée il y a quelques instants, celle-ci, elle était signée d'une certaine chanteuse nommée Corona. Ça s'invente pas l'histoire ce matin. 7h21, il y a bien un endroit où il y a des boîtes de nuit et particulièrement l'été, c'est la Côte d'Azur. Le Var en particulier, on va rejoindre Saint-Raphaël où nous attend notre envoyé spécial Julien Fautra. Alors qu'on attend beaucoup de monde ce week-end, c'est le vrai coup d'envoi de la saison estivale. Bonjour à vous Julien.
Bonjour Stéphane.
Pour prendre le pouls de la saison touristique qui commence, vous avez rencontré, vous, des vacanciers heureux, hein ?
Oui, dans ce quartier de Saint-Raphaël, à Guay, une petite station balnéaire, dans un écrin, je vous dis pas, devant moi la rade, l'une des plus belles de la Côte d'Azur, cernée entre un cap et une pointe. Faut être précis, le cap Dramont avec son sémaphore et la pointe de la Baumette, plage de sable fin, abritée du vent. Et Alain, 56 ans, lyonnais, contemplatif, les enfants vaguent de leur côté, lui, maillot de bain, casquette et regard vers l'horizon.
Pour le moment, faut profiter du moment tel qu'il est. De plus en plus, avec les 2 années qu'on vient de vivre, on se dit le bon moment, quand il est là, faut en profiter tout de suite. Et puis dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 an, on verra ce qui se passera.
Ce qui fait que vous êtes face à la mer,
avec les bateaux.
Dans une baie qui est magnifique, ouais, c'est top.
Et si je me retourne, le massif de l'Estérel qui domine comme ça, imposant sa roche rouge et sa végétation, des pins, des cèdres, des cyprès, cette pinède à perte de vue.
On est en train, si vous voulez, de se soulager de toute cette frustration qu'on a eue pendant quasiment un peu plus d'un an et demi.
Fatih de Mulhouse, en vacances jusqu'à demain sur la Côte d'Azur.
On reprend la vie normalement, quoi. On est des privilégiés parce qu'en ce moment, le temps, il n'est pas très, très avantageux dans le reste de la France.
C'est un euphémisme.
Exactement. On revit. Non, sincèrement, vive la France et vive la Côte d'Azur.
Alors le virus, Julien, n'a pas disparu, hein. Il est toujours dans les esprits.
Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Oui, parce que tout le monde m'en parle, en évoquant notamment la vaccination ou le risque d'une quatrième vague. Mais non, parce que ces touristes se forcent à reprendre la vie d'avant Covid. Pour bien comprendre, je vous emmène à Aguet-Soleil, un camping, là où il y a d'espace. Situation idéale, il suffit de monter 4 marches depuis la plage. Les premiers emplacements...
Bonjour.
Rencontre avec Sylvie, la patronne. Selon elle, les touristes cherchent d'abord à penser à autre chose.
Oui, parce qu'on est au grand air. Bon, après, au niveau de la réception, au niveau des sanitaires, on a mis en place les gestes barrières. Les gens qui arrivent sont souvent masqués, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, après, une fois qu'ils sont sur place, bon, c'est sûr que sur la plage, pour circuler dans les allées, bon, ils sont quand même plus relax.
On croise dans l'allée du camping Patrick et Denis, qui est allemand. Vacances au grand air pour laisser le coronavirus derrière soi.
Vous voyez, être comme ça, plus ou moins toute la journée.
Comme ça, ça veut dire je vous vois torse nu en maillot de bain.
Torse nu en maillot de bain. Vous voyez, on a le petit bateau, les roulettes. Moi et ma femme, tous les matins, on prend le petit Zodiac pour aller faire une heure en mer. On ne s'est jamais posé la question de ne pas sortir en prenant les précautions élémentaires et obligatoires qu'on a pris.
If you camp, you have your own place.
Franchement, au camping, on a sa place, son propre espace, on peut garder ses distances. Je ne pense plus qu'à profiter à fond.
You have this beautiful water.
Et vous voyez comme l'eau est belle. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas parti en vacances. Je veux juste que ce soit super.
Il y a des annulations de dernière minute. Néanmoins, surtout des Anglais, une clientèle importante ici au camping. L'Angleterre où l'épidémie repart et où les conditions de sortie de territoire sont contraignantes.
Julien, ce que je retiens là, c'est qu'il y a la volonté de dépenser ses économies cet été. Hein.
Absolument, plus que jamais. Et s'il y a un endroit qui est le symbole de cela, c'est bien le restaurant de plage. J'arrive au club Agathos, à peu près 80 couverts, donc c'est pas rien.
Restaurant Club Agathos, bonsoir.
Plein, oui, midi et soir. Laurent, le patron, n'avait jamais autant travaillé.
Alors, attendez, j'ai vérifié la disponibilité, ma super. Les gens ont un désir de sortir, de s'évader. Tous mes confrères et tout, on s'aperçoit que voilà, on travaille. Depuis qu'on a ouvert, ça n'arrête pas, quoi. Ça affiche des complets midi, soir, et les réservations se font sur une semaine, voire 2 semaines même des fois.
2 semaines?
Oui, ouais, jusqu'à 1 à 2 semaines. Ouais.
Vous aviez déjà vu ça les années précédentes?
Non, pas autant, non.
Alors plusieurs raisons, volonté de sortir de chez soi, être dehors sous le soleil, boire et manger. L'été 2021, résumé par ces touristes, Rachel et Daniel de Reims, ils n'ont plus aucune limite.
C'est la libération, là oui, ça, on compte plus. Tant pis, on verra bien, ça tombe, on va être confiné en plus, donc on verra. Donc là on compte pas.
Vous ne regardez plus à la dépense?
Non. On ne sait pas ce que va nous réserver les jours, on en profite un max.
Et donc en profiter un max, ça veut dire quoi?
Boire un verre tous les 5 minutes, aller au restaurant, aller à la plage.
Faire les boutiques surtout, oui.
Et là, on se lâche. Le cadre est magnifique. Le cadre, la température, le climat, le ciel bleu. On ne sait même pas si on va repartir d'ailleurs. On est sur Reims, nous. On part plus.
Le Var, comme si vous y étiez ce matin. Merci à vous, Julien Fautra, Saint-Raphaël. Avant ce premier grand week-end de départ en vacances, c'est rouge en Ile-de-France ce vendredi. C'est orange sur le reste du territoire. On va vous accompagner, RTL, bien sûr. Soyez bien prudents au volant. Et quand on est au volant, rien de mieux que la musique. Donc, pépite musicale d'Anthony Barthes, hein, après ça.
RTL Matin. Stéphane Carpentier.
On a eu que du bon cette semaine et ça se confirme ce vendredi matin. Bonjour Anthony.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La pépite musicale, on vous écoute.
Alors parmi les artistes qui vont passer l'été sur scène, on aura le plaisir de retrouver Jean-Louis Aubert. Il donnera d'ailleurs le coup d'envoi des Francofolies demain à La Rochelle. Il y a 5 ans, l'ex-téléphone a enregistré une chanson qu'on ne trouve pas sur ses albums studio. Il s'agit de la reprise d'un classique américain, un morceau qui a aussi bien influencé les Beatles, Bob Dylan que Simon et Garfunkel. Le morceau « Bye Bye Love ». des Everly Brothers. Jean-Louis Aubert avait 2 ans quand les frères Don et Phil Everly l'ont enregistré à Nashville en 57. Ils avaient vendu dans la foulée plus d'un million de 45 tours. Ce fut leur premier succès et notre Jean-Louis National n'a fait qu'une prise en studio. On sent qu'il s'éclate. Les arrangements sont volontairement proches de l'original. C'est notre pépite du jour. Bye Bye Love par Jean-Louis Aubert. Elle est géniale parce qu'elle file le sourire, alors que le texte est d'une tristesse absolue. Parce qu'il n'est question que de rupture et de solitude. Voilà, Jean-Louis Aubert l'a enregistré pour faire plaisir à un de ses amis, un des plus grands réalisateurs de disques français, Dominique Blanc-Francard, qui a fêté ses 50 ans de musique en 2016. Tous ses potes avaient repris les chansons qu'il adorait adolescent. Le disque s'appelle It's a Teenage Dream. Il est disponible en streaming et on y trouve notamment donc cette pépite de Jean-Louis Aubert.
Aubert en francophonie demain pour l'ouverture. Le patron des Franco d'ailleurs sera notre invité tout à l'heure, Gérard Pont, à 8h35 avant le coup d'envoi. Merci Anthony Martin. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, 15h30 cet après-midi. Et là aussi, tiens, on pousse la chansonnette.
Ariel, vous pouvez nous faire aussi la mélodie Vine Enfant.
Alors. Oh, oh, holy night, tender night, all is clear. Bright on the mother and child.
Oui, mais on comprend rien. Parce que moi, je chante en français.
Ah oui, c'est... Ah oui, allez-y en français.
Reverb.
Alors, elle vient.
Douce nuit, sainte nuit, tous endormis. Seul demeure le couple divin.
Et un coup de
il adore en secret l'enfant saint. Alors, tu vois que je comprends ce que je dis. Bon.
Laurent Ruquier, les grosses têtes, c'est 15h30, bien sûr, cet après-midi. Le temps, Louis Baudin, avec tout ça, ça va pas nous faire changer la météo, évidemment. Il y a une petite accalmie quand même.
Mais voilà, exactement. Une petite accalmie, c'est ce qu'il faut retenir, avec du grand soleil, même dans la moitié sud cet après-midi. Quelques nuages dans le nord, mais surtout moins de précipitations. Il y a qu'entre la Bretagne et le Cotentin, où ça restera un peu plus nuageux, avec là, quelques averses. Il y en a déjà un petit peu, d'ailleurs, du côté des Monts d'Arrée. Et les températures, ben, elles remontent un petit peu. 18 à 21 degrés près de la Manche, 21 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et 25 à 30 degrés dans le sud.
Merci Louise, c'est un bon vendredi qu'on vous souhaite évidemment, c'est l'heure du Tout Info de 7h30.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pour tout entendre de l'actualité de ce 9 juillet.
Elle est arrivée mais sans personne pour l'entourer, la flamme olympique. À 2 semaines du coup d'envoi des Jeux, comme un avant-goût de ce qui attend les athlètes, Tokyo, ce sera à huis clos. Alors beaucoup de sportifs s'y sont préparés car aller chercher une médaille sans public pour vous encourager, c'est tout un travail. Myriam Salmi est psychologue et s'occupe notamment de Teddy Riner.
Bien sûr que les athlètes vont savoir faire, mais c'est vrai qu'arriver dans un stade immense sans public, c'est quand même assez bizarre, étrange. C'est des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. C'est pour ça que je dis depuis le début, vraiment là, on peut dire que ce sont les jeux du mental.
Ceux qui vont gagner là-bas, la médaille aura encore plus de valeur dans ces jeux particuliers.
C'est exactement ce que je pense, ce que je dis depuis le départ. Ce ne sera pas une médaille par défaut, parce que ce n'était pas des jeux comme d'habitude. Ce sera des jeux qui vont apporter la démonstration de la force mentale des athlètes. C'est pour ça que je dis franchement, c'est remarquable de ramener une médaille de ces jeux-là.
La psychologue Myriam Salmi avec Isabelle Langer.
Premier gros week-end sur les routes des vacances, c'est orange aujourd'hui pour les départs.
Et même rouge en Ile-de-France. Prudence donc. Alors sur la route, attention à ne pas regarder autre chose que la route. La notification qu'on ne veut pas manquer, le coup de fil qu'on veut prendre, l'inattention grimpe en flèche. C'est ce que révèle ce matin une étude menée par les sociétés d'autoroutes, Christophe Bourreau.
Et cette étude est basée sur l'observation. Ainsi, pendant des jours, des enquêteurs en voiture banalisée ont scruté le trafic et le résultat est édifiant puisque un automobiliste sur 12 tient un téléphone en main tout en conduisant. Et cela, quelle que soit la file de circulation, droite, gauche ou au milieu. Mais ce sont surtout les chauffeurs poids lourds qui sont les moins disciplinés puisque 1 sur 7 utilise son téléphone tout en roulant. Et encore, c'est une moyenne car ce chiffre peut grimper suivant les routes. Exemple, sur l'autoroute A1, l'enquête révèle qu'un chauffeur sur 4 est complètement inattentif à sa conduite. 13% ont même été surpris à avoir les yeux fixés sur leur écran de smartphone installé sur le tableau de bord. Une attitude bien sûr dangereuse car aujourd'hui, l'inattention est responsable de 14% des accidents mortels sur autoroute.
Christophe Bourreau. Et justement, si vous êtes en voiture et que vous roulez à Paris, à partir de la fin août, ce sera jusqu'à 30 km/h maximum dans quasiment toute la capitale. C'était une promesse d'Anne Hidalgo.
L'actualité, c'est également l'Espagne et le Portugal, persona non grata pour les vacances.
C'est en tout cas la recommandation du gouvernement en France, et cela en raison de la diffusion du variant Delta. Pour y faire face, la vaccination. Hier, Jean Castex a rencontré les associations d'élus. Et pour tous ceux qui ont participé à cette réunion, cela ne fait aucun doute. Il y aura bien une loi pour obliger les soignants à se faire vacciner. Christophe Bouillon est le président de l'Association des Petites Villes de France.
Il nous a demandé à chacune des associations des collectivités notre avis et une tendance générale à se dégager pour vouloir cette vaccination, même si c'est la responsabilité de l'État. Le Premier ministre nous a indiqué que ça passerait par une loi et que cette loi serait présentée au Conseil constitutionnel pour vérifier qu'il n'y a pas de rupture d'égalité dans son principe.
Présentée au Conseil constitutionnel très prochainement ?
Oui, je crois que la décision est imminente. Il n'a pas avancé de date, mais le sentiment qui se dégage de cette concertation, c'est que les choses vont se préciser assez rapidement. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on sera fixé et que le gouvernement souhaite aller le plus vite possible. Ça, c'est une certitude.
Christophe Bouillon, le président de l'Association des Petites Villes de France, joint par Jacques Sauret.
Et à 8h20, en direct avec nos invités tout à l'heure, on se demandera s'il faut faire une croix sur le Portugal et l'Espagne et que faire si on a déjà réservé. La grande boucle.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voie va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Et la 12e étape remportée hier à Nîmes par l'Allemand Nils Polit, malgré ses 16 minutes de retard sur le coureur de la Bora-Hansgrohe, Tadej Pogacar va prendre le départ en jaune de l'étape du jour, près de 220 km en plaine entre Nîmes et Carcassonne. Et vous allez voir qu'il s'en est passé des choses sur ce trajet, c'est ce que nous raconte Christian Laborde.
Espérons que dans les hôtels de Nîmes où ils ont dîné et dormi, les coureurs du Tour de France n'ont pas dégusté de poisson. Ceux qui se seront régalés d'un loup ou gavés de sushis ne sont pas sûrs, en effet, de rejoindre Carcassonne où se juge l'arrivée. Le peloton est allergique aux poissons. Depuis les années 60, depuis le 7 juillet 1962, jour de l'étape Luchon-Carcassonne, toute la nuit précédant le départ, l'équipe Ineos a commencé par son leader Gastone Nencini, vainqueur du Tour en 1960. Jean souffre et vomit. Gastone Nencini et Alberto Acirelli abandonnent. Hans Junkermann et Franz De Mulder prennent le départ avant de disparaître dans le premier fourré pour chier. On accuse les truites servies à Luchon, qui n'auraient pas été fraîches. Or, elles venaient d'être pêchées, ces truites des Pyrénées. On accusa la sauce, concoctée non par le cuistot, mais par le soigneur, une sauce qui aurait transformé ces truites en poisson volant. Celui qui n'avait pas mangé de truites, mais qui volait ce jour-là, c'est le puissant Jan Stablenski, qui s'impose à Carcassonne devant son équipier Rudy Altig.
Le récit de Christian Laborde, départ de cette 13e étape un peu après 12h, ce sera à suivre toutes les demi-heures sur RTL et puis à 18h30, le Club Jalabert avec Christophe Paquin.
Hortense Crépin, merci à vous, le Tout Info sur RTL 7h27. Bonjour François Langlais.
Bonjour Stéphane.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis voilà, Paulette. Stéphane.
Paulette, elle va rester sur le trottoir et rentrer à pied parce que des vélos, il y en a plus. Pénurie mondiale de vélos. En selle dans un instant, je vous raconte ça.
Histoire de deux roues dans l'Angléco juste après ça. A tout de suite.
D'ici à 9h, vous serez peut-être l'un des gagnants du grand jeu RTL de l'été. Pour vous inscrire, il vous suffit d'appeler le 3210, 50 centimes par minute, ou d'envoyer RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. À gagner 1000 euros cash, mais également des smartphones, des tablettes, des week-ends thalasso ou des vacances en famille. Bonne chance à vous.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
L'Angléco à 7h39, François, voilà qu'on manque de vélos, non seulement en France, mais dans le monde entier.
À peine croyable, et pourtant vrai, la pénurie de vélos est mondiale, au point que pour certains modèles, les vélos à assistance électrique notamment, les délais de livraison atteignent 4 à 6 mois. Et que les prix ont augmenté d'au moins 10% à cause de la flambée des cours de l'aluminium et puis des difficultés à trouver des pièces importées. Même les réparateurs de machines d'occasion tirent la langue. Ils ne parviennent plus à s'approvisionner en pièces détachées. Dernière manifestation en date de cette tension, le fabricant français Moustache, 150 salariés installés dans les Vosges. Il a été contraint de mettre ses troupes au chômage technique alors que la demande n'a jamais été aussi importante.
La demande de vélo, François, elle est forte à ce point-là ?
C'est la folie. Les rayons des magasins spécialisés et de la grande distribution sont complètement dégarnis parce que les ventes ont flambé, plus 25% pour les ventes en France, 45% au Royaume-Uni, 77% aux États-Unis. Les raisons d'un tel boom tiennent à l'épidémie, aux habitudes prises pendant les confinements, rejet de la voiture, crainte de la contamination dans les transports en commun, désir soudain de faire de l'exercice, rupture dans l'organisation des journées de travail, qui est moins prévisible qu'auparavant, au moins pour certains salariés, des phénomènes de psychologie collective qui se sont produits en même temps dans la plupart des grandes villes du monde, et la plupart des grandes villes qui ont aussitôt adapté leur plan de circulation pour allonger les pistes cyclables et qui ont produit une sorte de fureur mondiale de la cyclomotion.
Mais alors pardon, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à fabriquer des vélos alors qu'on parvient à faire des avions ?
Vous savez, le vélo, ça semble simple, et pourtant, c'est l'aboutissement de chaînes de production planétaires. Bon nombre de pièces viennent d'Asie, y compris pour les vélos assemblés en France. Et l'un des fournisseurs clés, c'est le japonais Shimano, qui fabrique des freins et des systèmes de changement de vitesse. Il est assailli par les commandes, alors qu'il détient plus de 60% du marché mondial sur les vélos haut de gamme. Pour certaines de ces pièces, le délai atteint maintenant 400 jours, c'est plus d'un an. Et pourtant, cette firme basée à Osaka fait tourner ses usines vraiment à pleine vapeur. Au point que la start-up de Greg LeMond, vous savez, trois fois vainqueur du Tour de France, a dû retarder son lancement de plusieurs mois, il fabriquait des vélos, parce que les livraisons de Shimano avaient été amputées de 80% sur le premier semestre. Et les problèmes sont similaires avec les fabricants de cadres à Taïwan ou en Chine.
Et alors, il n'y a pas d'autres fournisseurs ?
Ils sont tous saturés, partout dans le monde. Et puis à ça s'ajoute le renchérissement des matières premières, les difficultés de transport. À cause de l'épidémie, un gigantesque embouteillage de containers ralentit toujours le trafic du port de Yantian. C'est l'un des plus importants de mer de Chine. Il y aurait là-bas 350 000 containers en attente d'être traités. Des bouchons, bouchons géants dont les effets dureront tout au long de l'année 2021, au moins, à la fois sur les délais et sur les prix. Le coût du fret a littéralement explosé. Un conteneur de 40 pieds, bon, vous n'en commandez peut-être pas souvent, c'est une boîte métallique de 12 mètres de long, ça coûte 5000 euros entre la Chine et l'Europe, c'est 60% de plus qu'en janvier, et c'est presque 4 fois plus qu'avant l'épidémie. En fait, c'est toute la chaîne planétaire de l'industrie du vélo qui a déraillé.
L'Angléco, pénurie de vélo ce matin avec François. Merci à vous. On retrouve tout ça bien sûr sur l'appli RTL. 7h42, bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
L'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet. La quatrième vague est-elle déjà là ou peut-on encore l'éviter ?
Question-réponse juste après ceci, les 7h42. À tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur.
Bonjour Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Vous êtes donc membre aussi, je le disais, du conseil scientifique. Est-ce que ce matin vous êtes inquiet, professeur ?
Alors on observe, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, la poussée de ce fameux variant Delta, variant indien, qui, on s'en rend compte, est extrêmement transmissible, puisque tous les pays vivent la même expérience. Là, l'inquiétude, on l'aura quand on aura mieux compris le lien qui existe entre ce virus et la protection apportée par la vaccination. Si la protection apportée par la vaccination est vraiment solide, on pourrait avoir une épidémie de cas sans nécessairement des formes graves en très grand nombre, avec hospitalisation, décès, etc. Si en revanche la protection apportée par la vaccination n'est pas suffisante, on pourrait avoir, alors pour l'échelle de la France, on pense que ce sera plutôt vers la fin août que dans les toutes prochaines semaines, on pourrait avoir à ce moment-là, effectivement, donc une montée des hospitalisations et une remise en tension de notre système de santé.
Donc cette quatrième vague, ça pourrait être fin août, c'est ce que vous nous dites.
Beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle, parce qu'on doit mettre ensemble des paramètres qui sont, un, estimer l'augmentation de transmissibilité de ce variant par rapport à ses prédécesseurs, on ne l'a pas encore de façon très fiable. Deux, la protection réelle apportée par la vaccination contre l'infection déjà, et puis après contre les formes graves. Et puis trois, l'effet par exemple du climat, et puis aussi des comportements des personnes. On a... on est dans une période où on est en train de lever différentes mesures de restriction de la circulation du virus. Est-ce que ça va être le grand n'importe quoi pendant l'été parce que les gens ont vraiment besoin de se relâcher, etc. Ou est-ce que les gens vont prendre conscience que malgré tout, il y a quand même, avec ce nouveau variant, une situation un peu plus tendue, faire plus attention. Donc, beaucoup d'incertitudes par rapport à ces
pardon, protections. Je vous écoute et je m'inquiète parce que vous me dites on ne sait pas encore exactement quelle est la garantie du vaccin et des vaccins contre ce variant Delta.
Alors, il faut estimer les chiffres. Il faut reprendre un petit peu l'historique, finalement, d'émergence de ce variant. Rappelez-vous, mois de mars, on apprend qu'en Inde, dans l'état de Maharashtra, vous avez un nouveau variant qui émerge. Mais au début, l'épidémie d'Inde, c'était le variant anglais. Avril, le fameux variant Delta prend le dessus et est responsable de cette épidémie très meurtrière à New Delhi, notamment. Le virus arrive au mois de mai en Grande-Bretagne. Les données un petit peu fiables qu'on peut analyser nous arrivent à partir du mois de mai, donc c'est finalement mi-juin que nous on commence à avoir des estimations sur l'augmentation de la transmissibilité, sa sévérité, la protection apportée par le vaccin. Tout ça prend du temps et ça fait à peine 3 semaines qu'on est capable d'injecter dans des modèles ces nouveaux paramètres, donc, avec quand même un certain degré d'incertitude.
Beaucoup d'incertitude, vous nous le dites. Alors qu'est-ce qu'on fait pour prendre des précautions là? On remet le masque? On n'ouvre pas les discothèques ce soir? Quelles sont les mesures finalement de restriction qu'il faut prendre?
De mesures à prendre. Il y en a une, effectivement, qui concerne la circulation même de ce virus. On se rend compte qu'il y a des lieux qui ont été des démarrages d'épidémie très forts. Alors, c'est sûr que quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans les stades de foot avec l'euro,
c'était une mauvaise idée de maintenir cet euro.
Une fois de plus, c'est allé extrêmement vite. On est les informations que je partage avec vous, ce sont des choses que l'on connaît depuis, ça se compte en jours, maximum de 3 semaines. Vous voyez que ça va très 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 vite. Donc c'est quand même difficile de planifier quand la situation évolue aussi vite. Mais je vous donne juste des exemples. Des rassemblements comme ceux d'un stade de foot, comme on peut les voir au moment où on se rend compte en toute l'Europe que l'épidémie repart, forcément ça nous inquiète. Les lieux de transmission restent les mêmes. Ce seront les lieux fermés, où vous ne portez pas le masque. Donc, à chacun de voir, dans la mesure du possible, comment limiter ce type d'exposition. Après, on peut faire les choses, une fois de plus, de façon posée et éviter le débordement. Ce qu'on ne veut pas, c'est la grande fête en milieu fermé où tout le monde hurle et chante, parce que là, effectivement, il y a un risque de cluster.
Donc, les discothèques, il faudrait peut-être s'abstenir.
Alors, sur les discothèques, c'est clairement un endroit à risque par rapport à l'émergence de ce variant, c'est sûr. Et puis,
l'autre
sujet qui, moi, me paraît fondamental, c'est la vaccination. Parce que même si on se rend compte que la vaccination n'est pas 100% efficace, elle est quand même à 95% efficace contre les formes graves, les hospitalisations. C'est ces formes graves, d'abord, qui sont responsables des décès, de tout ce qu'on ne veut pas voir, des séquelles éventuellement. Et puis, c'est aussi celles qui mettent en tension notre système de santé, au point qu'après, ça rejaillit sur l'ensemble du fonctionnement de la société.
Qu'est-ce qu'on fait? Vaccination obligatoire pour tous. J'entends dès le professeur Delfraissy, qui est quand même à la tête du conseil scientifique dont vous faites partie, dire il faut qu'on ait 100% de personnes vaccinées pour avoir une véritable immunité collective. 100%, professeur. Le seul moyen d'arriver à 100%, c'est de rendre obligatoire la vaccination.
Il faut... Pour moi, si vous voulez, on vit vraiment une situation que je trouve assez absurde, au sens où on a une crise qu'on commence à bien connaître maintenant, qui nous a coûté plusieurs centaines de milliards d'euros au pays. On a eu plus de 100 000 morts. On a à côté de ça un vaccin dont on sait qu'il est très efficace. Il est gratuit. Il nous permettrait de sortir, je ne dis pas de façon définitive, mais vraiment de rendre la situation beaucoup plus facile à gérer. tout ce qu'on peut faire pour que ce vaccin soit utilisé par tous, effectivement, va devenir nécessaire dans une crise de la gravité de celle que nous sommes en train de vivre.
Donc l'obligation. Je pourrais vous me dire, vous n'allez pas le dire, vous trouvez que c'est aller trop loin.
La question, est-ce que la liberté, c'est
pas de protéger soi et les autres.
La question est de savoir quelle est la stratégie la meilleure pour atteindre effectivement ces 100% ou 90% de couverture vaccinale. Et c'est là où effectivement certains vous diront attention, l'obligation peut être contre-productive, vous allez cristalliser le débat, etc. Et compagnie. Moi-même, n'étant pas expert en sciences sociales, sciences comportementales, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure façon d'arriver au 100%. Ma conviction d'épidémiologiste, de quelqu'un qui donc regarde l'évolution de ces épidémies, c'est de dire la seule façon de s'en sortir et de façon durable passera par la vaccination. Qui doit couvrir l'ensemble de la population, éventuellement être répété après chaque année chez les plus vulnérables.
C'est ce qu'a dit le Premier ministre, on aura peut-être une troisième dose pour eux.
Pour les plus vulnérables.
À l'automne.
À l'automne, juste avant la saison hivernale, etc. C'est la meilleure façon d'y arriver. Donc on se retrouve maintenant dans cette situation. L'urgence aujourd'hui, c'est que les gens... En fait, vous allez voir qu'on va parler de cette épidémie de cas, on va voir que sur les hôpitaux, ça va tenir pendant encore quelques semaines. Mais c'est cette période qu'il faut utiliser pour se vacciner. Parce que pour une vaccination complète et qui vous protège, il vous faudra 6 semaines. Hein, c'est 3 à 4 semaines entre les injections, 15 jours après pour avoir une immunité qui est robuste. Profitons de l'été pour se vacciner, pour être au mieux à la rentrée où là, effectivement, parce le système de santé peut être en tension.
Et oui, parce que sinon, c'est un nouveau scénario catastrophe.
Si les gens se disent, on va attendre la rentrée, on profite de l'été, etc., et puis à la rentrée, on se vaccine, ce sera trop tard.
Ce sera trop tard.
Il faut vraiment profiter de l'été, parce qu'on a un peu plus de liberté, d'organisation de notre temps, etc. Je pense qu'en plus, le gouvernement a rendu la vaccination plus facile. Vous pouvez vous faire vacciner à 2 endroits différents, etc. Et faisons, surtout pour les plus de 60 ans, parce que le déficit qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire français, c'est on est à 80% de couverture vaccinale chez les plus de 60 ans. C'est là vraiment qu'il faut gagner, parce que c'est dans ces populations-là qu'il y a les plus vulnérables.
Est-ce que ça veut dire que, aussi, si jamais on ne se vaccine pas suffisamment, il peut y avoir un jour un nouveau variant, et bien qu'il devienne résistant?
Alors, ça se passera plus à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que la genèse de nouveaux variants, elle continuera tant que l'ensemble de la planète ne sera pas protégée. Donc on est quand même sur une échelle de temps plus longue pour arriver à atteindre une couverture vaccinale qui puisse être planétaire. Mais moi-même j'y suis évidemment favorable, mais c'est quelque chose qui va se construire sur 2 à 3 ans. Vous n'allez pas vacciner d'un claquement de doigts l'ensemble de la planète. Donc il faut garder cette perspective de temps en tête quand on parle de l'élimination du virus à l'échelle de la planète, ou en tout cas une circulation suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'émergence de nouveaux variants qui remettent en péril nos programmes vaccinaux. Mais dans l'immédiat, on peut faire des choses très simples, en tout cas ici pour la France, puisque c'est ce qui nous concerne ce matin, avec une vaccination pendant l'été.
Les soignants, la sensibilisation a commencé plus tôt.
On voit qu'on n'est pas arrivé jusqu'au 80% minimum qui aurait été ce que l'on aurait pu souhaiter. Et ça passera à un moment ou à un autre par une vaccination obligatoire.
D'accord. Mais pour la population globale, vous êtes plus réticent. Juste, pardon, qu'est-ce qu'il faut faire les anti-vax, vous les entendez, ils sont autour de nous, ils nous disent on n'a pas assez de recul sur ces vaccins. Ils ont été faits à la va-vite. En quelques mots, dites.
On a beaucoup de recul. On a probablement plus de recul sur ce vaccin que sur aucun autre vaccin. Je me trompe peut-être en disant ça, mais ce que j'entends, certainement pas sur la durée, mais sur le court terme, on n'a jamais autant scruté les effets indésirables après l'administration d'un vaccin qu'on a fait avec celui-là. On est à plus d'un milliard de doses pour les vaccins ARN messagers maintenant. Ils sont suivis, répertoriés, etc. On peut dire que les accidents, par exemple, avec le recul qu'on a, sont de l'ordre de 1 pour 100 000. Pour l'ARN messager, c'est des accidents allergiques, 1 pour 100 000. Une fois sur 5, ces accidents allergiques amènent à une hospitalisation. Donc, l'accident grave, c'est 1 pour 500 000. On est quand même à des échelles, si vous voulez, quand vous comparez le risque associé à l'infection par rapport au risque associé au vaccin, il n'y a pas photo.
Si jamais on ne se vaccine pas assez, on risque d'aller vers un nouveau confinement. Vous pensez que c'est encore une hypothèse possible, ça ?
Plus difficile à préciser parce qu'une fois de plus, ça dépendra de la mise en tension du service de santé, mais des mesures de restriction pour limiter la circulation du virus, vers la fin de l'été,
la fin de l'été, si jamais on ne se vaccine pas.
Des mesures pour limiter la circulation du virus, je ne parle pas de confinement nécessairement. Le confinement, c'est 70-80% de restriction de circulation du virus. Là, on sera peut-être à des échelles de 30-40%.
Et la fin de l'épidémie, c'est peut-être pas pour 2022, si je comprends bien. Ça peut être.
Non, mais on a tout entre les mains. En tout cas, pour se protéger, d'accord, on a tout entre les mains. Vaccinons-nous pendant l'été.
Merci beaucoup, professeur. Bonne journée à vous.
Merci à tous les deux. Entretien qu'on retrouve évidemment sur l'appli RTL. Il est 7h54. Dans un instant,
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Cini.
8h05, Cyprien. Ce matin, ce sont les Surf Awards.
Chronique de gala ce matin pour dernier surf de l'info de la saison, puisque toute l'équipe du surf s'est réunie, donc moi tout seul, hein, pour décerner les Surf de l'info Awards, les meilleures sorties punchline de la saison. Et tout de suite, première catégorie.
L'award de la meilleure idée pour passer Noël sous Covid est attribué à...
Alors là... Là, on a eu un souci, hein, je ne vous le cache pas. Une égalité parfaite, grosse discussion dans le jury entre moi et moi-même. Hein. Faut dire qu'on a vu passer des idées de génie pour passer Noël sous Covid. Égalité entre cet épidémiologiste belge qui avait proposé, souvenez-vous...
Imaginer des fêtes de fin d'année différentes. Ou bien carrément les reporter, éventuellement reporter des fêtes de fin d'année ou de Noël en juillet ou quand il fait beau.
Excellente idée, ça, pour reporter Noël. Ex aequo, donc, avec cette proposition du professeur Rémi Salomon.
On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger.
C'est vrai qu'elle était bien celle-là, si on a essayé, elle était vraiment bien. Quel talent ! Allez, trophée suivant.
L'award de la meilleure récupération politique de Gaulle est attribué à...
Ouh, trophée très disputé, ça, ils étaient nombreux en liste. Hein. Mais victoire haut la main pour Ségolène Royal qui les avait enchaînés sous forme de questions extrêmement pertinentes.
Vous croyez que le général de Gaulle, il aurait envoyé les soldats soignants au front sans masque ?
Ah ben non, jamais il aurait fait ça. Puis alors,
Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies ?
Ah ben non, il adorait lire en plus, général. Non. En revanche, la question est beaucoup plus pointue là.
Voici la question qui vaut 1 million d'euros.
Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon ?
Bon, ben je vais appeler un ami. J'ai appelé David.
Ben appelons David, parce que là, nous, on n'a pas la réponse. Hein. Sinon, autre catégorie.
L'award du plus gros scoop de l'année est attribué à...
BFM TV, bien sûr, avec ce scoop dingue, interruption des programmes.
Breaking news.
Tiens, mon image en direct de Rueil-Malmaison, où Lynn Renault vient tout juste de se faire vacciner.
Hop, 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 hop. Si ça, c'est pas du breaking news, interruption des programmes. Sinon, en vrac, cette saison, on a eu ça aussi.
Non, mais maintenant, on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est ? Click and collect, Bright Friday, mais c'est ridicule.
Ou Rachida Dati expliquant qu'Anne Hidalgo est sa meilleure amie.
Non, mais oui, mais ça n'empêche pas la réalité des choses. Oui, on peut être copine. Là, Non, mais je peux être copine avec quelqu'un qui n'est pas compétent pour gérer une ville comme d'accord. Paris. Hein.
Ah, c'est bon, l'amitié en politique, enfin. Au moment de faire le bilan, awards d'honneur pour l'ensemble de son œuvre.
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie, aillent chercher les enfants.
Réunion open space couloir.
Pas de quoi s'appeler.
L'immense Jean Castex de son...
Je n'ai pas téléchargé Télécovid. Alors maintenant, je vous annonce, en réalité, Télécovid, indépendamment de ma propre 36, personne...
36-15, Télécovid, à cet appel sorti de nulle part.
Auto-confinez-vous 8 jours avant Noël.
Alors, pour le surf de l'info...
On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
Mais on se retrouve fin août pour la rentrée, enfin normalement. Et joyeux Noël quand même, hein, parce que moi j'ai suivi les conseils de l'épidémiologiste belge. Ce soir c'est dindon marron à la maison.
Ce soir, sérieusement, 19h15, dans RTL Soir, c'est la DER de...
On défait le monde, canal historique, oui, juste avant la dindon marron.
On sera à l'écoute, Cyprien Cini. Le temps du jour, vendredi 9 juillet. On a Sylvie sur Twitter qui est dans le nord de la Seine-et-Marne qui nous dit ce matin c'est correct.
Oui, c'est ça, c'est correct. Hein. Je vais suivre Cyprien. C'est vrai qu'on avait peut-être une météo qui accompagnait Noël. Mais non, là ça va un petit peu mieux aujourd'hui quand même, avec une belle accalmie, notamment dans la moitié sud. On va retrouver du grand soleil cet après-midi. Encore quelques nuages après des Pyrénées. Mais globalement, donc dans la moitié sud, c'est fait. Ça sera une belle journée estivale avec du soleil. Bon, près de la Méditerranée, vous êtes déjà habitué. Vous resterez un petit peu de vent d'ailleurs. Dans la moitié nord, bah là aussi, ça va aller mieux. Là, on n'est pas habitué. Avec le retour de belles éclaircies, surtout moins d'averses. Alors, sauf quand même, entre la Bretagne, le Cotentin, une partie des Pays de la Loire, où là, on aura un ciel un petit peu plus chargé. Peut-être encore quelques gouttes de pluie. Mais ailleurs, donc, avec ce soleil un peu plus présent, hein, je dis pas du grand ciel bleu, et bien les températures vont en profiter pour grimper, 18 à 21 degrés près de la Manche, mais 21 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord, où on se rapproche petit à petit des valeurs de saison, 25 à 30 degrés dans le sud, là, ben voilà, c'est estival, 32 même à Perpignan.
Merci Louis, ça se passe comme ça dans le ciel, ça se passe comme ça sur RTL, le grand jeu RTL de l'été, il faut composer dès maintenant pour tenter votre chance, le 32-10-3-2-1-0, ou alors envoyer RTL par SMS au 74 900 75 15 centimes par SMS pour tenter de gagner ce matin soit une super console de jeux vidéo, mais alors la top du top, hein, ou alors une super trottinette électrique. 3210 sur vos téléphones ou alors RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à vous tous, il est 8h.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier
et Isabelle Choquet pour le journal de 8h. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, nos châteaux en Espagne.
Les rêves de vacances sur la Costa del Sol ont été douchés par les déclarations alarmistes du gouvernement sur la situation sanitaire en Espagne et aussi au Portugal. En Israël, près de la moitié des nouveaux cas concernent des personnes vaccinées. Le vaccin est-il défaillant? Réponse dans ce journal. À suivre également un document RTL, le témoignage d'une infirmière agressée par un patient au lourd passé judiciaire et psychiatrique. Elle réclame un droit à l'information pour les soignants. Paris a un train de sénateurs, limitation à 30 km/h dès fin août. Et puis le retour des vieilles charrues avec Vianney en ouverture.
RTL Matin.
En ce début de mois de juillet, les Français étaient en mode... Et puis Clément Beaune est arrivé avec des déclarations qui ont douché l'enthousiasme des vacanciers. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes recommande d'éviter le Portugal et l'Espagne pour cet été car la situation sanitaire se dégrade à grande vitesse dans ces deux pays. Patrick Tejero, vous êtes à la frontière franco-espagnole sur l'aire du village catalan sur l'autoroute A9 et vous avez vu passer quelques Français bien décidés à rejoindre malgré tout les plages espagnoles.
Oui, pas vraiment de réticence, mais les Français seront très prudents cet été en Espagne. Jean-Luc part en camping-car, c'est un besoin vital.
Faut bien vivre, et là en fait on vit plus. Hein. Les vacances, ça fait partie de notre santé.
Sylvie va aider sa fille à déménager à Lloret-de-Mar.
Un peu inquiet, mais bon, là, on y va par obligation.
Ce qu'a dit le secrétaire d'État aux Affaires européennes, là, récemment, disant qu'il déconseillait un petit peu aux Français d'aller en Espagne, ça vous fait réfléchir un peu?
Si on n'était pas obligé d'y aller, on n'y serait pas allé.
Pas de soucis pour Janine et Pedro. Ils viennent d'Alsace et vont séjourner à Rosas.
On soit en France ou en Espagne, on est vaccinés et on fait attention. On a le masque, on garde les distances. Non, on n'a pas peur du tout.
Les boîtes de nuit sont fermées actuellement en Espagne.
Ça, oui, c'est pas très peu pour nous.
Il faut bien reconnaître qu'avec Louise, leur petite fille de 7 ans, ils n'ont pas besoin d'animation.
Je vais peut-être me baigner parce que là-bas, il fait chaud.
Ça t'inquiète pas trop d'aller en Espagne avec toutes ces histoires de maladies, de Covid et tout ça?
Ça va, ouais. Non. Ça va être trop cool.
Alors souhaitons quand même de bonnes vacances avec un petit peu plus de vigilance que d'habitude à tous ceux qui quittent la France aujourd'hui.
Un des vacanciers français en partance pour l'Espagne au micro RTL de Patrick Tejero.
Et je vous donne rendez-vous à 8h20 avec nos deux invités ce matin sur ces Français qui misent sur l'Espagne et le Portugal pour cet été. Et on vous expliquera aussi que faire si vous avez déjà réservé pour Cascais ou encore Séville. Soyez là, 8h20, le rendez-vous tout à l'heure. Chez nous en France, c'est jour de fête, Isabelle. Les discothèques rouvrent leurs portes aujourd'hui. Hein.
Oui, avec une jauge et le pass sanitaire, mais avec des fêtards sans masque, puisque ce n'est pas obligatoire. Et cela alors que le variant Delta se propage à grande vitesse. C'est vrai chez nous, c'est vrai aussi en Israël, pays où la couverture vaccinale est l'une des meilleures au monde. Malgré ça, 40 à 50% des nouveaux cas concernent des personnes totalement vaccinées. Pour autant, ça ne signifie pas que le vaccin est inefficace. À Jérusalem pour RTL, Stéphane Amar.
Pour la première fois depuis des mois, Israël a dépassé le cap des 500 contaminations par jour. Mais le gouvernement ne prend pour l'instant aucune mesure de restriction supplémentaire. Car le variant Delta, responsable de la plupart des contaminations, reste relativement inoffensif dans un pays où les deux tiers de la population adulte est vaccinée. Une quarantaine de cas graves seulement ont été recensés à travers le pays et surtout aucun décès. Selon la plupart des spécialistes, le vaccin constitue une protection efficace contre le variant. Même quand elles sont contaminées, les personnes vaccinées présentent la plupart du temps des symptômes légers ou pas de symptômes du tout. Pour limiter la propagation du variant, Israël mise désormais sur la vaccination des adolescents et le pays reste fermé aux touristes, au moins jusqu'à début août.
Stéphane Amar en Israël pour RTL. Pfizer va demander une autorisation dans les semaines qui viennent aux États-Unis et en Europe pour une troisième dose de son vaccin. C'est un rappel qui serait destiné aux personnes les plus fragiles.
Soyez attentifs à l'écoute de ce document RTL. On vous propose le témoignage d'une infirmière agressée la semaine dernière dans le Gers.
Parmi ses patients, il y avait en effet un homme de 65 ans sorti de prison l'an dernier après une condamnation pour le meurtre de sa colocataire. Les experts psychiatres ne le considéraient pas comme dangereux. Adeline, elle, ignorait le passé judiciaire de cet homme à qui elle rendait visite à domicile le 2 juillet. Après les soins, il s'est jeté sur elle et elle s'est vue mourir.
Il m'a attrapé avec son bras gauche au niveau du cou. Il a vidé la bombe lacrymogène en totalité sur mon visage et il a serré. J'ai même pas eu le temps de me rendre compte que je m'asphyxiais. J'ai eu la vision qui s'est troublée et là je pensais que mon conjoint annoncerait à ma fille qu'elle aura pas sa maman pour son anniversaire, qu'elle la verrait plus jamais. Et à un moment, il a desserré assez pour que je puisse parler et je lui ai dit ça, s'il vous plaît, arrêtez, ne me tuez pas, je ferai tout ce que vous voudrez. Il m'a ramené dans sa chambre et là, je lui ai dit que j'étais toute à lui, que j'allais baisser mon pantalon et ma culotte pour prouver ma bonne foi. Et finalement, la réaction que j'ai eue, ça l'a déstabilisé, c'était le but. Il n'arrivait pas à avoir d'érection. Il essayait en fait d'avoir une érection, mais il me tenait toujours par le cou avec un de ses bras. Vous êtes malade, c'est une maladie ce que vous avez. Tout en lui parlant, je reculais et j'ai continué à reculer tout doucement jusqu'à un moment où j'ai atteint pratiquement la porte. Il a couru sur moi, il m'a attrapé par le bras. Il a pris ses pieds en fait dans mon sac de soins que j'avais posé sur le passage. Ça l'a fait tomber. Donc il m'a lâché et là j'ai dévalé les escaliers sans même me retourner et je suis arrivée sur la place.
Vous, ce que vous demandez, parce que cette personne avait été condamnée, parce qu'elle était en liberté depuis peu de temps, finalement, c'est que des professions comme les vôtres puissent être au moins au courant.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est inadmissible de laisser des personnes se jeter dans la gueule du loup, comme on peut dire. C'est pas normal qu'on soit au courant de rien du tout.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Très mal. Je suis terrorisée. Je dors plus. Si j'ai pas mon conjoint avec moi, j'ai peur. J'essaye de prendre le dessus. Je me dis que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. Que c'est pas pour rien. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'espère que mon expérience, elle permettra que des choses soient mises en place et que ça ne se reproduise plus jamais.
Un témoignage, document RTL recueilli par Patrick Hisson. Nous partons maintenant rejoindre Samia Belbachir à Marseille, car on l'a appris il y a quelques minutes à peine. Une jeune fille de 17 ans a été tuée par balle, Samia.
Oui, il s'agit d'un événement qui a eu lieu cette nuit à Septaine-les-Vallons, c'est aux abords des quartiers nord de Marseille. Selon nos confrères de la Provence, de l'individu aurait tiré à la Kalachnikov et au fusil à canon scié sur une petite voiture de marque Fiat. La jeune fille, victime collatérale, se trouvait à l'arrière du véhicule. Elle aurait reçu plusieurs balles à la tête, tandis qu'un jeune homme de 21 ans qui était au poste de conducteur et une passagère ont été seulement blessés. Il s'agit de la sixième fusillade en moins de deux semaines. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place. Ils ont essayé de réanimer la jeune fille de 17 ans sans succès.
Merci Samia Belbachir en direct de Marseille pour RTL.
8h07 après la pause, Paris au ralenti, limité à 30 km/h dès la fin du mois d'août. Eh bien, ça grogne déjà, à tout de suite.
RTL Matin.
Il va falloir être patient, Isabelle. Dès la fin du mois d'août, Paris va ralentir. La vitesse sera limitée à 30 km/h.
C'était une promesse d'Anne Hidalgo, mais les automobilistes parisiens ont tout de même été pris de court. Seuls quelques axes restent limités à 50. Le périphérique, les boulevards des Maréchaux et certaines artères, grandes artères comme les Champs-Élysées. Sébastien Rouxel, vous vous êtes promené dans Paris ce matin et vous avez croisé des conducteurs vraiment ronchons.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, Isabelle. Au volant de sa berline noire, Fissal a du mal à cacher sa colère.
La vérité, c'est une honte pour une ville, pour une capitale de France comme Paris. Limitation à 30 km, l'interdiction de circuler au centre de Paris, les travaux, le bazar partout, c'est horrible, c'est insupportable, c'est insupportable.
À quelques mètres de là, Saïd attend dans son taxi devant la gare de Lyon. Ce qui l'inquiète, lui, ce sont les conséquences économiques de cette mesure.
C'est le client qui va en baver, c'est le client qui va perdre tout simplement du temps. Si le client n'est pas content, il va prendre d'autres transports, donc il va laisser le taxi tout simplement. Donc ça nous inquiète un petit peu. C'est une angoisse de plus avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, avec tout ce qu'on a vécu, donc c'est une angoisse de plus.
Paul, lui, est un peu plus philosophe.
Ça roule tellement mal que dans certains coins de Paris, c'est déjà le cas en fait. Des fois, à limite, on fait du 10 km/h, on roule au pas parce que ça roule mal. Pour dépasser les 30 km/h, la journée, c'est déjà très compliqué.
La preuve, selon l'Observatoire des déplacements à Paris, la vitesse moyenne d'une voiture en 2019 était de seulement 11,6 km/h dans la capitale.
Merci Sébastien Rouxel en direct des rues de Paris. En football, c'est acté. Didier Deschamps va rester à la tête des Bleus jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. La question a été réglée en 3 minutes. C'est ce que dit Noël Le Graët qui s'est entretenu hier avec le sélectionneur. Sur le Tour de France, c'est l'Allemand Nils Polite qui a remporté la 12e étape hier à Nîmes. Tadej Pogacar est arrivé un bon quart d'heure après lui, mais il conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, 13e étape entre Nîmes et Carcassonne, près de 220 km en plaine.
Tour de France 2021. Le carnet de route de Laurent Jalabert. Avec Christian Olivier.
Bonjour Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
12 étapes de couverte, une seule victoire d'étape et un maillot jaune à Landerneau, premier jour pour Julien Alaphilippe. Vous me voyez venir, Laurent Jalabert, je parle du cyclisme français qui est vraiment en dedans. Pourquoi ?
Ah, c'est difficile de savoir pourquoi. C'est un constat, c'est vrai, il y a une forte attente sur le Tour de France, sur notre Tour national. Il y a une forte attente du public français. Les Français sont en nombre, ils sont encore 27 en course sur 155 participants, donc c'est presque 20% de l'effectif global, et pour autant, on n'est pas les meilleurs. Moi, je crois qu'on a tendance volontiers, dans les différents médias, à faire rêver les gens, à leur proposer des scénarios qui relèvent du rêve, oui, qui relèvent du rêve, puisque Bernard Hinault, lorsqu'il dit avant le départ du Tour de France, quand on lui pose la question, croyez-vous qu'un Français puisse gagner le Tour ? Il répond non. Tout le monde s'insurge. J'ai dit, mais le blaireau, il est dépassé. Mais le blaireau, il y voit clair. Le blaireau, il sait ce que c'est que de gagner un Tour. Et on n'a pas un coureur capable de gagner un Paris-Nice, un Tirreno-Adriatico, une course d'une semaine, ou un Tour de Catalogne, ou un Tour de Romandie. Alors pourquoi gagnerait-on un Tour de France ? Le cyclisme français n'est pas mauvais. Simplement, ils se défendent avec ses... non pas ce niveau-là, d'assurer l'intérim et de gagner la plus belle course du monde, alors que leur niveau, c'est pas ça.
On se retrouve à 10h pour la présentation de la 13e étape, Laurent Jalabert.
À tout à l'heure.
Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Un dernier mot de sport, c'est désormais certain, les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront essentiellement à huis clos. Mesure de prudence des organisateurs face au rebond de l'épidémie. L'état d'urgence sanitaire a été rétabli dans la capitale japonaise.
On parlait tout à l'heure de la réouverture des discothèques. Les festivals aussi sont de retour, Isabelle, les vieilles charrues depuis hier soir.
Avec une jauge limitée à 5000 personnes et le pass sanitaire obligatoire à l'entrée. Mais qu'importe, on a assisté à de belles retrouvailles entre Vianney et son public.
Un monde qu'on n'a pas connu depuis un an et demi, quoi. Ça fait du bien.
C'est vraiment une renaissance parce que tout ça, ça nous manquait. Et en vrai, c'est le feu que ça reprenne aussi bien.
Oui, c'était trop bien parce qu'en plus, on n'avait pas le masque. Du coup, on en profitait et ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps. Je m'en vais. Voilà, un super concert, premier concert après toute cette galère, donc ça fait beaucoup de bien.
C'est compliqué ce pass sanitaire ou ça vaut vraiment le coup ?
Ah non, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, ça fait trop de bien, ça détend, c'est une autre étape dans cette crise qu'on a dépassée. Prends ma main.
Avec Steven Valery hier soir en ouverture des vieilles charrues, c'est reparti les festivals.
Ouais, c'est bien ça, Steven, on le retrouvera dans Laissez-vous tenter après 9h tout à l'heure et à 8h35 on sera avec le patron des Francofolies d'La Rochelle parce que le coup d'envoi c'est demain. Merci beaucoup Isabelle, toute l'actualité, l'appli RTL. RTL qui vous accompagne sur la route en ce week-end de grand départ. On va faire le premier point sur la circulation avec Sarah Loubacouche. Il y a déjà du monde ?
Ça commence à coincer doucement en Ile-de-France avec de premiers ralentissements aux portes de Paris en direction des portes sud et ouest notamment. Ça va évidemment s'intensifier au fil des heures. Un gros week-end de départ qui se profile. Une journée classée orange dans le sens des départs au niveau national, rouge en Ile-de-France. Alors ce petit conseil du bison futé pour vous notamment qui êtes en Ile-de-France, qui comptez partir vers des vacances bien mérité, eh ben on essaye de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant midi pour s'éviter des contrariétés.
Sarah Lou qui vous accompagne toute la journée et notamment dès les premières difficultés.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
8h17, soyez tous les bienvenus. Cette année encore, avec cette crise sanitaire, de nombreux Français, donc vous allez passer vos vacances dans l'Hexagone. Et pour près des deux tiers des Français, c'est en voiture qu'ils vont se déplacer. Seulement voilà, passer à la pompe risque d'être douloureux puisque les prix des carburants ne cessent de grimper. Comptez 1,56€ en moyenne pour le samplon 95, 1,45€ pour le gazole, soit une hausse constante depuis 7 mois maintenant et qui risque bien de plomber le budget vacances. Christophe, vous êtes notre spécialiste auto ici à RTL. Faut-il vraiment craindre des prix plus chers à la pompe pour ces vacances ?
La réponse est oui. L'addition sera clairement plus lourde puisque le litre de carburant a en moyenne grimpé de 20 centimes depuis l'été dernier. Prenons un exemple, la famille Carpentier au hasard qui a décidé de passer ses vacances à Palavas-les-Flots. Depuis Paris en véhicule familial essence, cela vous coûtera, Stéphane, suivant le modèle de votre voiture bien sûr, entre 10 et 15 euros de plus le plein. Et pour le retour, l'addition devrait être aussi salée car pour l'instant, pas de baisse en vue avant la rentrée.
La hausse, elle s'explique comment ?
Alors les raisons sont à chercher du côté de la reprise car on assiste à un phénomène unique dans l'histoire, une réouverture des économies après des mois à l'arrêt. Or, entre-temps, les pays producteurs de pétrole ont réduit leur production. comme la demande est plus forte, mécaniquement les prix grimpent. Tout cela entraîné par deux gros consommateurs, les États-Unis et la Chine, même si le variant Delta pourrait enrayer cette dynamique.
Malgré ce phénomène, Christophe Bourreau, on n'a pas encore atteint des records. Hein.
Oui, car la hausse actuelle intervient, ne l'oublions pas, après une année de baisse historique à cause de la crise sanitaire. Et s'ils ont fait un bond, les prix n'ont pas retrouvé les pics de ces dernières années. En 2018, le litre du gazole avait atteint 1,53€ et le sans-plomb un record en mai 2019.
Est-ce qu'on risque de revenir à de tels niveaux ?
Selon les experts, non, car la demande devrait se stabiliser à la rentrée. Entre-temps, la production aura augmenté. Toutefois, ne rêvez pas, si le prix du brut se stabilise, vous ne sentirez pas une grosse différence à la pompe, en tout cas pas tout de suite, étant donné qu'en France, vous le savez, ce sont essentiellement les taxes que l'on paie sur un litre de carburant à hauteur de 65%.
Alors si on veut essayer de faire des économies, Christophe, pour ces départs, vous nous donnez quelques astuces pour payer moins cher le carburant là ?
Oui, d'abord je vous conseille les applications et le site du gouvernement qui vous donne le prix des carburants en temps réel, région par région. Autre conseil, si vous le pouvez, sortez de l'autoroute où un plein coûte 10€ de plus en moyenne. Enfin, surveillez en ce moment les opérations à prix coûtant qui sont fréquentes à la veille des départs dans les enseignes d'hypermarchés, ce qui permet de gagner de 2 à 3 centimes par litre. C'est toujours ça de gagner.
Et à défaut de trouver une station moins chère, on peut aussi économiser en pratiquant l'éco-conduite ?
Alors Stéphane, pied léger, conduite zen, on évite l'accélération brusque et on pense aussi aux objets que l'on transporte. Coffres de toit, vélos peuvent vite faire grimper la consommation et donc l'addition de 10 à 15%. Enfin, méfiez-vous de la clim, inutile de la pousser à fond, car dans ce cas, la consommation peut bondir jusqu'à 20% en plus.
Précieux conseil de Christophe Bourreau, brigade RTL, signé ce matin de notre spécialiste automobile.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
On va s'intéresser à nos frontières, au-delà de nos frontières, pour savoir comment le virus est géré à l'étranger en ce début d'été. Cette semaine, on vous a emmené chaque jour dans un pays différent pour voir comment on y gère les remontées des cas de Covid. Russie, Tunisie, Grèce, Espagne et cap ce matin sur la Chine où nous attend Stéphane Pambrin. Bonjour.
Bonjour.
En direct avec nous ce matin depuis la Chine. Stéphane, d'abord, est-ce que les Chinois partent en vacances pendant l'été ?
Écoutez, les vraies grandes vacances hein, ici en Chine, c'est plutôt pendant l'hiver, hein, pendant le nouvel an chinois. Cette année, c'était au mois de février. Pour beaucoup de Chinois, ce sont les seules vraies vacances hein, de l'année. Mais c'est vrai que cette année, de plus en plus de Chinois prennent aussi des vacances pendant l'été. Les écoles sont fermées ici en Chine hein, pendant deux mois et il faut donc bien occuper les enfants. En Chine, le climat n'est pas forcément idéal hein, en cette période de l'année. C'est la saison des pluies et du coup, les Chinois avaient plutôt l'habitude de voyager à l'étranger, au Japon, en Thaïlande, mais aussi en Europe hein, et en France. 5 millions de touristes chinois chaque année en Europe, mais c'était effectivement avant l'épidémie.
Avant l'épidémie, parce qu'en Chine, Stéphane, il y a toujours beaucoup de restrictions pour voyager, hein.
Oui, surtout pour revenir en Chine, hein, c'est très très difficile. À Pékin, par exemple, c'est 3 semaines de quarantaine obligatoire, hein, certainement même la plus stricte du monde, dans des hôtels réquisitionnés avec des batteries de tests. Hein, c'est très anxiogène et c'est très cher aussi, car la quarantaine est à nos frais. Et du coup, c'est vrai que les Chinois ne voyagent plus beaucoup, en tout cas plus beaucoup à l'étranger.
Mais du coup, les Chinois, ils vont où ? Ils voyagent où ?
Alors l'endroit à la mode en Chine, c'est l'île de Hainan, surnommée le Hawaï chinois, une île tropicale, hein, grande comme la Belgique, à 3h30 à peu près d'avion de Pékin, une île toute proche du Vietnam. Et depuis la fermeture des frontières, elle accueille 80 millions de touristes chinois par an, c'est énorme.
80 millions, qu'est-ce qu'on y fait ?
Eh bien les Chinois, vous le savez peut-être, ils n'aiment pas trop le soleil et ça peut paraître paradoxal, mais ils vont à Hainan sous les tropiques pour faire du shopping, car le gouvernement chinois a construit là-bas 9 duty-free géants, des centres commerciaux parmi les plus grands du monde où tout est vendu hors taxe. Chaque Chinois peut y dépenser un quota de 15 000€ par an et par personne, et croyez-moi, il les dépense puisque c'est plein tous les jours. Ça représente, écoutez bien, l'équivalent de 10 milliards d'euros par an juste en produits détaxés. Cet été, ce sera donc environ 2 milliards d'euros qui iront directement dans les caisses de l'île. C'est 10% de tous les produits de luxe vendus en Chine. Et puis cet été, l'île est pleine de touristes. Tous les hôtels sont déjà pleins.
C'est plein à ras-bord. Merci beaucoup Stéphane Pambrin pour la carte postale de cette situation avec ce virus chez vous en Chine. On va rester, tiens, je dirais bien en Asie encore un petit peu pour parler du Japon ce matin. Avec vous, Philippe Dova qui est sur place. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Les JO, c'est dans 2 semaines, Philippe. La flamme olympique d'ailleurs est arrivée cette nuit à Tokyo. Hier, on a appris qu'il n'y aurait pas finalement de spectateurs dans la plupart des stades, ce qui n'est pas rien pour cet événement planétaire. Est-ce que cette décision sur place rassure ce matin la population japonaise, Philippe ?
Oh bah, la population, elle n'en est plus au stade d'être rassurée ou pas, Stéphane. Les Japonais ne veulent plus des jeux depuis très longtemps. Près de 90% d'entre eux n'en veulent pas. Ils sont complètement désabusés face à l'amateurisme, face au cafouillage et au changement de cap quasi quotidien de leurs gouvernants. D'ailleurs, ils l'expriment dans les urnes, lors des élections partielles récentes, qu'elles soient législatives ou municipales il y a quelques jours, comme à Tokyo, en sanctionnant sévèrement le parti conservateur au pouvoir. Ils n'en veulent pas. Et au-delà de la psychose sanitaire, les Japonais sont furieux face à ce qu'ils appellent la dictature du Comité Olympique International, à vouloir leur imposer ces jeux coûte que coûte et au mépris des dirigeants du comité à leur égard qui, dans un pays où la face est importante, multiplient les maladresses jour après jour.
Et c'est vraiment toute la population, Philippe Dova, qui est dans cet état d'esprit là en ce moment ?
Ah oui Stéphane, et puis cela commence au plus haut niveau avec l'incertitude qui plane sur la présence et le discours de l'empereur lors de la cérémonie d'ouverture le 23 juillet. Il y a quelques jours, l'empereur, via son grand chambellan, s'était dit inquiet de la situation sanitaire et tout ça n'est pas anodin et c'est même du jamais vu en termes de protocole impérial à 15 jours de la manifestation. Ensuite, toutes les associations de médecins ont condamné le maintien des jeux et les tokyoïtes n'admettent pas les contraintes du nouvel état d'urgence pour, disent-ils, permettre à des athlètes étrangers de venir à Tokyo. Alors du coup, la plupart des 60 sponsors japonais qui ont quand même déboursé plus de 3 milliards d'euros pour sponsoriser ces jeux ont décidé hier, la marque Canon en tête, d'annuler tous les événements de promotion car ils ne veulent pas bien évidemment associer leur nom à des jeux un peu maudits, des jeux sans public où l'ambiance sera tout sauf une grande ambiance de fête.
Voilà, des jeux à huis clos. Philippe Dova depuis l'Asie pour RTL. Merci à vous Philippe. C'est dans 15 jours et en 15 jours il peut s'en passer encore des choses par rapport à cet événement planétaire. Philippe Dova, merci à vous. 8h25, bonjour à tous ceux qui arrivent, qui ouvrent les yeux. Vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix. Dans un instant, on va s'intéresser aux vacances des Français cette fois. Puisqu'hier, on a appris que le gouvernement déconseillait plutôt de se rendre cet été en Espagne et au Portugal. Sauf qu'il y a des gens qui adorent l'Espagne et le Portugal. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà réservé pour le Portugal ou l'Espagne. Donc on demande des conseils ce matin en direct à deux invités. L'une représente les agences de voyage, l'autre et avocate en droit du tourisme. Et c'est rien que pour vous après ça.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
8h27, ça nous intéressait ce matin à ces touristes français qui avaient prévu de partir au Portugal et en Espagne cet été. Le gouvernement recommande désormais d'éviter ces destinations cet été pour partir en vacances. L'annonce, les mots ont été prononcés hier. C'est un peu tard car beaucoup de juilletistes ont déjà bouclé leurs réservations. Donc on va vous aider justement ce matin à faire le point avec deux invités. Bonjour d'abord à Valérie Bonnède.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes secrétaire général des entreprises de voyage. Et bonjour également à vous, maître Laurence Gégouzeau.
Bonjour.
Vous êtes avocate à la Cour, spécialiste en droit du tourisme. D'abord, Valérie Bonnède, est-ce que l'Espagne et le Portugal avaient déjà été très prisés cette année par les futurs vacanciers ?
Oui, pour répondre un peu globalement sur l'objectif des vacances de cet été des Français, bien sûr que l'Espagne et le Portugal notamment, la Grèce, la Croatie, l'Italie également, sont des destinations prisées en général encore plus cette année, puisque vous savez qu'il y a des restrictions sur beaucoup de longs courriers. Donc l'Europe, classée en pays vert, fait le plein, entre guillemets, et l'Espagne et le Portugal sont dans le peloton de tête.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu beaucoup de coups de fil depuis hier, beaucoup d'annulations, beaucoup d'interrogations depuis cet appel à la prudence du gouvernement français ?
Alors, juste pour rebondir, l'appel à la prudence du gouvernement, c'est surtout les mots de Clément Beaune, hein, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et non pas du gouvernement, puisque le gouvernement se réunit en cellule de crise lundi. Et pour le moment, c'est une parole isolée qui a été un petit peu recadrée, on va dire, par le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de modification sur ces destinations. Il y a une alerte de prudence, et la prudence, elle existe de toute façon. Vous savez qu'il y a des conditions effectivement pour aller dans ces pays, c'est-à-dire que si on est vacciné, ça suffit, sinon il faut des tests PCR, en tout cas pour la France, en termes d'identification de destination, et puis ces pays eux-mêmes imposent un certain nombre de restrictions, et les Français sont au courant, et en tout cas ceux qui passent par des agences de voyage ont toutes les informations. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas, très honnêtement, d'annulation en masse ou d'appel. On a fait le tour, vous êtes au courant que tous les médias sont intéressés au sujet depuis hier matin. Et pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on constate.
Voilà. Il n'y a pas de panique en tous les cas. Hein.
Non. Alors c'est vrai qu'on commence à être habitué un petit peu quand même, hein, depuis un an et demi à cette évolution des informations. Mais c'est vrai que ce moment est très important. C'est pour ça que nous, professionnels, on attire l'attention vraiment des pouvoirs publics. Chaque parole peut avoir des impacts. On est juste à la veille des vacances et ces vacances, les Français les attendent depuis longtemps.
Maître Laurence Gégouzeau, s'il y a des Français qui veulent respecter les consignes du gouvernement, en tous les cas, ces quelques mots prononcés hier, comme le rappelle Valérie Bonnel, et annuler leur voyage par exemple, est-ce que le remboursement est intégral si on a réservé une compagnie aérienne?
Pour le moment, non, puisque la destination est toujours possible, donc il n'y a aucune raison de que les compagnies aériennes remboursent les clients. Certaines peuvent éventuellement faire des facilités, notamment prévoir la possibilité d'un report, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là et il n'y a aucun cas d'annulation qui serait justifiée.
Et d'une façon plus globale, est-ce que ça veut dire qu'il faut privilégier les plus grandes compagnies plutôt que les low cost s'il y a un risque éventuel?
Écoutez, actuellement dans le contentieux, on voit que évidemment Air France fait toujours figure d'exemple, mais il n'y a pas véritablement de distinction entre les petites compagnies et les grosses. On a un peu tous les cas de figure. Il y en a qui sont bonnes élèves, et puis il y en a qui se font tirer l'oreille pour rembourser les clients, renvoyant parfois la balle sur les agences de voyage. Je ne peux pas dire que les petites compagnies soient plus dangereuses que les grosses.
Et là encore, maître, pour une question générale, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout lire, prendre un maximum d'assurance, quelle que soit la compagnie, l'hôtel, le club de voyage qu'on réserve?
Oui, enfin, si vous passez par une agence, en général, les professionnels qu'on vous conseille sont déjà sérieux. Je dirais que de façon plus générale, il faut prendre en ce moment une assurance annulation, parce qu'on voit bien qu'on n'a aucune certitude à 15 jours, un mois, que ça change constamment. Donc c'est vrai que si vous avez une assurance annulation, c'est quand même plus prudent, mais globalement, en tout cas, les agences sont quand même très sérieuses, ne proposent pas n'importe quel voyage en ce moment.
Est-ce qu'il y a des documents particuliers à prendre dans sa valise en ce moment, au-delà du fameux pass sanitaire?
Non, prenez évidemment tous vos échanges, mails avec l'agence ou le tour opérateur, ou si vous achetez en direct, gardez tous vos éléments en cas de contentieux, et puis évidemment votre passe sanitaire, vos tests s'il en faut. Là aussi, regardez bien le site du ministère des Affaires étrangères, ça évolue constamment.
Valérie Bonnel, puisque vous êtes en direct encore avec nous, et qu'on dit que les Français vont beaucoup se déplacer en France, rester à la maison, est-ce que malgré tout, il y a des pays en particulier qui sont ciblés en ce moment pour les futurs touristes de cet été?
Oui, alors je vous le disais, hein, d'abord l'Europe, ouais. Et on sent bien sûr qu'on passe de l'ombre au soleil, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que l'Europe du Sud, évidemment, est sollicitée, on le sait bien, on a eu une année très compliquée, les Français ont envie de soleil, donc on va vers le Sud, et le Sud de la France, et le Sud de l'Europe, mais surtout, ce qu'on constate, c'est que c'est la mer, la campagne, la montagne qui sont plébiscitées, et non pas le tourisme urbain, effectivement, où il y a plus de circulation de personnes. C'est un peu la même chose, d'ailleurs, pour les étrangers qui viennent en France. Hein. Paris, malheureusement, n'est pas une destination aussi fréquentée, aussi prisée que d'habitude. On privilégie la mer, la campagne et la montagne. Je reviens juste un instant sur le sujet sur lequel vous interrogiez Laurent Gégouzeau. Mmh. C'est vrai qu'au-delà du juridique, nous, notre intérêt, c'est que le client soit content. Ça fait un an quasiment qu'on l'accompagne pour remodifier les vacances qu'ils avaient initialement réservées. Et donc, on fait le maximum pour satisfaire nos clients. Et bien sûr que si une destination était fermée pour des raisons Covid, entre le moment où le client a acheté et le moment où il doit partir, nous serions évidemment amenés à rembourser le client aujourd'hui. Évidemment, juridiquement, c'est fondé. Mais de toute façon, commercialement, notre intérêt est de garder au maximum nos clients.
Voilà, ce sont des messages.
Et notre intérêt en termes de responsabilité, évidemment, également. Donc aujourd'hui, On respecte exactement les consignes de l'État. Et le classement en pays vert, orange et rouge donc permet de d'y voir plus clair et de suivre ces recommandations.
Merci à toutes les deux d'avoir été en direct ce matin. C'était précieux pour les futurs vacanciers, pour ceux qui auront la chance de s'évader. Valérie Bonnet en direct et maître Laurence Gégouzeau. Il est 8h34. Votre ciel, le ciel chez nous en France, détaillé par Louis Baudin juste après ça.
RTL Matin.
Sur RTL.
RTL Matin.
Le temps avec Louis Baudin pour les prochains jours. Alors aujourd'hui, on en profite parce que demain, dans le nord, bof.
Dans la moitié nord, bof, ouais. Très bof même. Alors aujourd'hui, profitons-en avec effectivement un peu plus d'éclaircies, un peu moins d'averses. Bon, dans la moitié nord, hein, je vois les images satellites, c'est pas non plus le grand ciel bleu, mais au moins quelques belles éclaircies. Une impression un petit peu plus agréable avec des températures en légère hausse. Puis effectivement, dans le sud, là, ça sera estival, hein, journée d'été avec soleil et chaleur. Demain, dans la moitié sud, ça continue. Quand je dis la moitié sud, c'est La Rochelle, Besançon à peu près, toujours la même limite. Au sud, ça restera très ensoleillé, très chaud également l'après-midi, pas loin de 30 degrés, avec encore un peu de vent en Méditerranée, mais dans la moitié nord, c'est reparti. Une nouvelle perturbation va traverser toutes ces régions, puis elle a l'air active en plus, donc ça veut dire beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. Alors ça commencera par le nord-ouest, ça finira par le nord-est en fin de journée, avec un vent assez fort, et puis évidemment des températures qui ne seront pas de saison. Dimanche, nouvelle accalmie, faut tout miser sur dimanche. Là voilà, profitez-en, vous avez un barbecue, une sortie à faire, c'est dimanche qu'il faut la faire, notamment dans la moitié nord, où là on aura un temps sec et ensoleillé, du coup de la douceur, hein, des températures de saison, parce que dès le début de semaine prochaine, non, ça se confirme, c'est incroyable. La nouvelle petite goutte froide dont on vous parle depuis des semaines et des semaines va revenir, et donc elle va ramener de l'instabilité. Alors le matin, ça ira encore à peu près, puis au fil des heures, de nouveau plus de nuages, des averses, parfois accompagnées d'orages. Ça vaut pour lundi, mardi, puis je recule encore, peut-être même pour le 14 juillet. Hein. Oui, ça continue. Alors, sauf près de la Méditerranée, où là, avec l'aide du vent, mais il y aura du Mistral et de la Tramontane, le ciel sera un peu plus dégagé. Puis évidemment, les températures, de nouveau en baisse. On aura du mal à atteindre les 20 degrés dans la moitié nord, parfois, et 25 degrés dans le sud. Alors, peut-être une amélioration en fin de semaine.
Ouais. Enfin,
je vous promets ça depuis tellement longtemps que... On va rester réservé. Allez, bon.
Vous savez quoi, vous revenez quand vous avez une bonne nouvelle.
Oui, alors hein, d'accord. Ah bah, je sais pas quoi. Alors.
C'est n'importe quoi, monsieur Bonin, cette
exactement.
Météo. 8h38.
Stéphane Carpentier, RTL.
1000 personnes.
Nous l'avons limité à 5000 parce que c'était l'autorisation que nous avions eue en février. Et comme il y a 15 jours, nous étions dans la jauge de 5000, on est resté à 5000 parce que ça demande évidemment, on ne peut pas changer en 15 jours de structure. Ça demande, s'il y a plus de monde, d'avoir plus d'accueil, type toilette, restauration, etc., etc. Donc on est resté dans la jauge de 5000 et on va être complet 4 soirs sur 5. Donc vraiment, je suis très content et je suis ravi. Vous savez, jouer devant 5000 personnes, c'est déjà formidable.
C'est déjà
pour
ça.
Des gens qui n'ont pas joué, pour des gens qui n'ont pas joué depuis un an et demi. Voilà, et donc non je trouve que c'est il y a beaucoup de concerts qui sont complets, donc on est très 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 heureux, et je pense que ça le public et les artistes n'attendent que ça, quoi. On est tous dans les starting blocks.
Ouais, c'est quasi complet, 4 soirs sur 5, ça c'est franchement bien et c'est une bonne nouvelle malgré le pass sanitaire, ouais. Parce que ça rébutait un petit peu les gens, mais ça passe, hein.
Oui, mais aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui, vous savez, le monde s'adapte vite, on s'est vite adapté à ce virus, et bon, il y a 3 semaines les gens ne comprenaient pas ce que c'était qu'un passe sanitaire, et maintenant ils ont compris que c'était un passe, comme je dis, salutaire, c'est-à-dire que ça va nous permettre tous d'être ensemble, d'être assurés d'être ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui pourront se faire tester. Enfin, non, tout ça a été, franchement, ne compliquons pas les choses, elles sont très simples. et je peux vous dire que, encore une fois, il y a 3 semaines, nous étions un peu plus inquiets, et aujourd'hui, je vois que, à la fois parce que les gens ont compris comment ça fonctionnait, parce que aussi beaucoup de plus en plus de gens se font vacciner, donc voilà, non, tout va bien.
Vous avez une super programmation en plus, hein, Jane Birkin, Alain Souchon, Raphaël, Vianney, Grand Corps Malade, Pomme, Jeanne Chiral, Yael Imani, Catherine Ringer.
Et cette année, on a 40 jeunes talents qu'il faut vraiment aller découvrir, parce que je suis persuadé que entre Clara Isée, November, Ultra, Hussard, Elia, bref, il y a toute une nouvelle génération d'artistes de francophones, français, qu'il faut vraiment aller découvrir, parce que je suis sûr que ce sont les têtes d'affiche de demain, et donc évidemment il y a les stars de la programmation, mais il y a aussi ces 40 jeunes talents qu'il faut vraiment aller découvrir.
Je reviens aux conditions, le masque on peut l'enlever pendant le concert, Gérard Harpon?
Absolument, ouais. Oui, absolument. Il y a pas de, à partir du moment, de toute façon ensemble nous sommes comment dire, pas contagieux, puisque justement il y a eu le contrôle, on est sain, donc enfin, je dis pas que ceux qui sont qui ont le virus ne sont pas sains dans le sens. Je veux dire, voilà, on peut tout à fait. On sera dans l'enceinte du festival, on sera comme dans la vie normale.
Ça bouillonne, vous nous dites déjà.
On pourra aller manger. Ouais. Comment ?
Ça bouillonne déjà dans les rues, vous nous dites, de La Rochelle, c'est tant mieux.
Oui, oui, ça c'est très agréable de sentir ça, de sentir cette émulation. Je sens bien que c'est en train de monter, et ça c'est très très agréable. On sent, vous entendez les camions qui passent avec le matériel, vous voyez ouais, je sens ça, je sens que c'est en train de reprendre comme avant, et ça c'est très agréable, et je me rends compte à quel point ça nous a manqué.
Ouais, ça relance la machine en tous les cas. Est-ce qu'avec cette billetterie là que vous avez, vous allez retomber quand même sur vos pattes financièrement, ou c'est pas possible?
Non, mais ça c'est encore une fois, comme je dis toujours, l'argent n'est pas notre moteur mais notre essence, donc voilà, ça fait partie de après la ministre de la Culture s'était engagée à soutenir le festival qui aurait lieu, donc on verra si, j'espère qu'elle tiendra ses promesses, mais c'est pas ça l'important, c'est vraiment que qu'on écoute ensemble, tous ensemble. On a quand même regardé beaucoup, pendant un an, des concerts sur notre téléphone ou notre ordinateur. Ça n'a rien à voir avec être collés les uns contre les autres, avec les vibrations, la sueur au front des musiciens, comme dit Véronique Sanson. C'est autre chose, c'est tout autre chose de vibrer, d'avoir une émotion collective. C'est pas du tout la même chose que d'être tout seul devant son téléphone, quoi.
Ça sera des belles soirées en tous les cas, les Franco de La Rochelle. Merci à vous, Gérard Poncet. À partir de
demain,
c'est
moi qui vous remercie.
Il y a des places encore sur le site des Francofolies. Hein. Faut pas hésiter.
Absolument. Hein. Mais plus beaucoup.
Plus beaucoup. Alors faites-le pour rejoindre la grande fête, bien sûr. Il y aura par exemple mardi sur scène un certain Benjamin. Attends, nous allons en Isère.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Je vous attends ce matin au bord de la Méditerranée, à Cannes, où le festival bat son plein. Deux rencontres au programme. Jodie Foster, qui est l'invité d'honneur de cette 74e édition. Puis Virginie Efira, qui va faire sensation ce soir dans Benedetta de Paul Verhoeven, sous le voile d'une nonne lesbienne au XVIIe siècle. Belle affiche, nous la partageons ensemble à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL. Vous êtes comme ça.
À 8h47, vous êtes comme ça, nous conduit ce matin, comme promis, en Isère. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour.
Serge, vous nous emmenez à la rencontre d'un jeune autiste, il s'appelle Franck Derrien. Il est passionné de course à pied en montagne, comme vous Serge d'ailleurs, et de randonnée sur les sommets. Une passion qu'il fait partager à des milliers d'internautes sur sa page Facebook.
Oui, Franck est autiste Asperger, originaire de la région parisienne. Il a décidé de s'installer à Villard-de-Lans, dans le Vercors. Et c'est tout naturellement en courant que débute notre rencontre au bord d'un magnifique lac de montagne.
Alors Franck, c'est agréable de courir comme ça dans le Vercors ?
Ouais, c'est très sympa, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment un lieu de ressourcement. C'est quand même un endroit magnifique. Donc voilà, lac des Prés, on est à 1530 mètres d'altitude, au-dessus de Villard-de-Lans. On vit dans un monde très dur, très anxiogène, faut dire ce qui est. Encore plus depuis le confinement. Et donc du coup, c'est quand même tellement beau de voir la nature, de courir dans un cadre aussi beau.
Tu te sens bien là ?
Oui.
La course à pied, tu adores ?
Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment un très bel échappatoire. Sachant que quand on court, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de noir, de blanc, de riche, de pauvre. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans la course à pied.
Alors, comme dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où un nain de jardin est photographié à travers le monde, Franck Derrien se déplace tout le temps avec un petit ours en peluche, baptisé Teddy, qu'il prend en photo sur les sommets.
Teddy est un ours d'enfance que je prends partout en photo avec la médaille de vice-champion de France en cross sport adapté. Voilà, je le prends sur la page Facebook, Franck Derrien, si vous voulez voir. Je mets plein de photos de lui. Teddy est un ours d'enfance, je suis né avec, je mourrai avec.
C'est ton compagnon ?
C'est mon compagnon, mon ami. Nous sommes inséparables et voilà. En 2018, c'était un très beau souvenir. J'avais été vice-champion de France en cross sport adapté avec mon club Ebin Sport Adapté, que je remercie, qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
Formidable ce Franck. Franck qui oublie son handicap, hein, Serge, lorsqu'il se trouve en montagne.
Oui, il arrive à surmonter ses peurs liées à l'autisme.
Je suis très sensible au bruit, par exemple. C'est très désagréable. Quand il y a beaucoup de monde dans une pièce, c'est très anxiogène. Du mal à gérer l'imprévu. Le milieu de la montagne, les gens sont très sympathiques. Il y a une ambiance qui n'est pas du tout la même chose que dans le monde classique, on va dire. C'est très ressourçant, les paysages sont très beaux. Il y a beaucoup d'endroits dans le Vercors, on peut voir des bouquetins. C'est beaucoup plus posé qu'en ville, il n'y a pas le bruit. Moi, je suis très sensible au bruit, donc du coup, il y a très peu de... Voilà, c'est très tranquille. Et donc, je me sens particulièrement bien en montagne. Là, on est sur le sentier qui redescend du Pas de l'Œil. Voilà, il y a plein de fleurs autour de nous, des arbres, les oiseaux qui chantent. C'est vraiment très agréable.
Et sur les sentiers du Vercors, les randonneurs reconnaissent parfois Franck Derrien, très présent sur les réseaux sociaux. Thierry vient du Vaucluse.
Je connais Franck, je le rencontre visuellement aujourd'hui, mais je le connais par rapport à Facebook, le site Randonnée Rencontre, où je le suis avec son petit ours Teddy. Il publie de très beaux reportages photos et c'est très sympathique.
Vous l'appréciez, Franck ?
Ah, ben bien sûr, bien sûr. Ça me fait grand plaisir de le rencontrer.
Alors, vous savez qu'il est autiste à Asperger ?
Oui, je le sais.
Sa vie, c'est de se retrouver en montagne, de parcourir la montagne.
Ben, c'est très bien, c'est un développement personnel, je trouve.
C'est très bien dit, merci beaucoup à tous les gens qui me suivent, c'est vraiment très touchant, on vit dans un monde très dur. Et quand je vois des gens comme vous, monsieur, ça me touche beaucoup et vraiment, c'est très touchant et vraiment, j'ai envie presque de pleurer. Vraiment, merci à vous.
Ce jeune autiste est aussi un contemplatif, hein, Serge. Il peut passer, Franck, des heures sur certains sommets des Alpes.
Oui, comme au Col Vert, à 1766 mètres d'altitude.
Le Col Vert, ben voilà, c'est vrai que c'est vraiment mon jardin, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un peu mon lieu de ressourcement favori. Et quand on arrive, on a une vue sur les Écrins, mon massif préféré, tout ce qui est Alpes du Sud. Et on voit très bien Belledonne. On a une vue sur l'agglomération de Grenoble, le sud de Grenoble. On voit toute la vallée, tout le Trièves. On voit le Dévoluy. C'est vraiment très, très beau. Parfois, je monte au Col Vert, j'y passe la journée. C'est tellement ressourçant, tellement apaisant. Il y a un banc, et voilà, comme je dis aux gens en rigolant, si un jour je gagne l'auto, j'achète le banc. Non, mais j'achète le banc. Il y a vraiment une vue paradisiaque. J'y accède depuis chez moi très rapidement. Et c'est quand même une magnifique randonnée. C'est un endroit que j'adore, que j'apprécie beaucoup.
Danielle, une randonneuse, est ravie de tomber sur Franck, l'autiste des cimes.
Je vais te prendre en photo, ça te fait rien avec Teddy ?
Allez-y,
ça
avec
te
plaisir,
va ?
Merci.
Tu es une star, Franck, là, quasiment.
Ouais. Je pense qu'on vit dans un monde tellement triste en ce moment que voilà, ça trouve ça rigolo d'être finalement traité comme une star et j'essaye d'en rire.
Moi, cette rencontre me touche beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Franck ?
Ben, qu'il faut garder espoir, effectivement, le monde est très dur pour tout le monde, même pour nous. Enfin, on a aussi tous nos souffrances à plus ou moins grande échelle. Alors, il faut justement pas baisser les bras.
C'est tellement beau, merci, merci. Vraiment, merci à vous. Et aussi, ça montre un peu aux personnes qui ont un handicap aussi que c'est possible quand même de faire quelques belles choses. Si ça peut être un message d'espoir pour d'autres personnes, ça peut être intéressant. Ça me donne de la force, ça me donne de l'espoir. C'est un énorme espoir, bien sûr. Ouais.
Formidable rencontre. Vous êtes comme ça, signé ce matin Serge Payot. C'était d'ailleurs la dernière chronique de la saison, le dernier rendez-vous de cette saison. C'est l'occasion de saluer le boulot des reporters de RTL et de nos correspondants. Elles étaient belles, ces rencontres et ces histoires. Ce sera comme ça tout l'été avec un été en France. Ils vont continuer cette affaire-là. Et puis on les retrouvera bien sûr à la rentrée. Le jeu dans un instant. Vous avez encore quelques instants pour nous rejoindre. 3210 par téléphone ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Ce matin, vous pouvez décrocher soit une trottinette électrique, soit une console de jeu, le verdict dans une poignée de secondes. Et puis dans la foulée, Cyril Lignac, qui est déjà réveillé, qui est déjà en studio, qui est au top de sa forme. Ça va, Cyril ?
Ça va, ça va.
À tout de suite.
RTL Matin. Stéphane Carpon. Le grand jeu RTL de l'été.
C'est le dernier de cette semaine, en tous les cas, pour notre tranche à nous, RTL Matin, grand jeu RTL de cet été, avec une cascade de cadeaux qui déferle, vous le savez. On vous offre tout plein de belles choses. On a Brigitte qui est connectée depuis le Finistère et Brest en particulier.
Oui, Brest, même le Finistère, la pointe, oui.
Ouais, ça va ?
Et oui, ça va. Bonjour Stéphane, ravi de vous avoir en ligne. Ça a été une agréable surprise pour moi d'être sélectionnée. Donc j'en profite pour saluer vos partenaires matinaux, Madame Morini-Bosque et ce cher Monsieur Lignac qui nous donne de bonnes recettes tous les matins. J'attends. Je vais prendre des notes et préparer mes ingrédients au marché.
Puisque vous êtes bien avec nous, Brigitte, manifestement, vous savez quoi ? On va écouter la recette de Cyril d'abord et puis on aura le verdict de votre cadeau ensuite. Oh, chambouler tout ça, on est un peu dingo, vous savez, ce matin.
Ça ne me contrarie pas. Que de bonheur en un petit moment, donc je prends tout ça. Voilà.
Allez, dites, c'est parti, on y va avec Cyril Lignac là.
Ok, merci.
Cyril, qu'est-ce qu'on cuisine ?
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Eh bien, je vous emmène en Corse pour cette petite dernière chronique. Et un des fruits de la plaine orientale, c'est le pomelo corse, qui est aussi le rubistar, c'est-à-dire cette chair hyper rouge, hyper sucré, délicat. Alors le pamplemousse a toujours de l'amertume, mais il se trouve que le pamplemousse en Corse, dans la plaine orientale, c'est quand même pour moi un des meilleurs agrumes que l'on fait en France. Parce que
quoi, il est plus sucré ?
Il est plus sucré, ouais. Il est plus délicat, il a une délicate amertume et vraiment douce, il n'y a pas besoin de le sucrer, et on peut l'utiliser autant dans la cuisine, dans nos salades, qu'en dessert. Alors, moi j'aime bien l'utiliser avec un petit fromage de chèvre.
Bien ça.
Je prends une salade, on peut y mettre plein de légumes d'aujourd'hui, là il y a les fèves, les petits pois, les courgettes, on peut utiliser tous les produits corses, et de l'huile d'olive, et on met le fromage de chèvre. Alors, soit on le met un petit peu au four, comme ça il cuit un tout petit peu doucement. On y ajoute un petit peu de miel, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin vieux. Mmh. Et on mélange, on fait une petite vinaigrette. Et alors je prends ma salade que je mets au milieu. Je prends des petits croutons, je prends des fruits, je coupe le pamplemousse. J'ajoute des petits légumes, je prends même les écorces de ce superbe pamplemousse que je confie délicatement, c'est-à-dire que je les mets dans de l'eau bouillante, ensuite je mets de l'eau, du sucre, un petit peu de jus de mon pamplemousse, je peux le mixer, ça me fait une compotée, et là je le dépose un tout petit peu sur le fromage de chèvre, ouais. Et là c'est délicieux, ouais. Avec les pomelos. Et si on veut en faire une salade de fruits, alors on utilise tous les fruits de saison, les fraises, le pamplemousse, moi j'aime bien les framboises, et on fait une petite salade avec ça, les amandes fraîches et un petit sorbet, c'est délicieux.
C'est diète en plus, c'est bien, non ?
Super. Ah ben là on est en plein dans la saison des fruits d'été, un petit fromage de chèvre, une tartine de pain grillé, un petit peu frotté à l'ail,
ouais,
et
formidable.
Puis c'est bon.
Brigitte, ça a l'air pas mal quand même, non ?
Ah, tout à fait, c'est absolument idéal quand on a la chance d'avoir de la chaleur autour. Bon,
non, c'est pas l'impression,
j'ai pas l'impression qu'il fasse torride à Brest là en ce moment, hein. C'est ça que vous voulez dire.
C'est pas torride, mais peu importe, quand on est gourmand, on sait apprécier toutes les bonnes choses.
La chaleur, elle est sur RTL, bien sûr, le cadeau. Il faut nous faire un choix ce matin, Brigitte, pour décrocher soit une console de jeu, soit une trottinette électrique entre, ouais, Jade et Jean-Michel Zeka.
Ben, j'opterais pour la très charmante Jade, qui nous fait le plaisir de sourire tous les matins avec l'ami Gérard, généralement.
Ben c'est parti, alors. On l'écoute,
ouais, on l'écoute.
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir choisi. Vous allez pouvoir filer comme le vent puisque vous venez de remporter une trottinette électrique. Attention quand même. Allez, bel été avec RTL.
Tu vas faire de la trottinette électrique à Brest ou pas, Brigitte?
Ah oui, surtout qu'il y a des côtes qui sont parfois un peu raides. Donc, pour filer comme le vent, comme elle le disait, c'est parfait.
En plus, on vous rajoute un petit cadeau.
Prudence,
en plus.
Avec prudence.
Hein. On vous rajoute un petit cadeau, c'est la compilation Les Artistes RTL 2021.
Mais c'est merveilleux.
Un double
c'est
CD, il y a tout le monde.
C'est cocagne pour moi ce matin.
C'est la fête, hein. Avec le tube de l'été, en plus.
Ouais. Ah, je vais devoir travailler mon déhanché pour les vacances.
Vous nous envoyez une vidéo, Brigitte, très très vite.
Ouais.
On vous embrasse, merci de votre fidélité, ouais, RTL.
Et merci à vous de votre bonne humeur et des émissions bien adaptées à notre humeur, à nous aussi.
À bientôt, Brigitte. Le prochain rendez-vous du grand jeu RTL de l'été, c'est tout à l'heure dans RTL vous régale. Vous vous inscrivez dès maintenant en composant le 3210. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Ce sont 75 centimes par SMS. Le bonheur absolu, c'est RTL, il est 9h.
RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
Et l'actualité, c'est avec Isabelle Choquet.
Une jeune fille de 17 ans a été tuée par balle cette nuit près de Marseille. Elle se trouvait dans une voiture qui a été mitraillée au fusil d'assaut et au fusil à canoncier. Selon les enquêteurs, c'est une victime collatérale. Elle n'était pas connue des services de police. En région parisienne, l'homme qui avait agressé un livreur devant un restaurant à Cergy-Pontoise a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il l'avait frappé et l'avait couvert d'injures racistes en évoquant son statut d'esclave. Il a été reconnu coupable d'apologie de crime contre l'humanité. Le variant Delta sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end. Déclaration d'Olivier Véran chez nos confrères de France Inter. Le ministre de la Santé affirme par ailleurs qu'un consensus se dégage sur la question de la vaccination obligatoire des soignants. Malgré la menace du variant Delta, les discothèques rouvrent aujourd'hui avec une jauge à 75% et la présentation du pass sanitaire à l'entrée. Le masque, en revanche, n'est pas obligatoire, mais simplement recommandé. Et puis, on va peut-être vers une troisième dose de vaccin pour les personnes les plus fragiles. Pfizer va demander une autorisation très prochainement aux États-Unis et en Europe. Paris au ralenti, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la capitale dès la fin du mois d'août. Seules exceptions, le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques grands axes comme les Champs-Élysées. L'actualité, c'est aussi la flamme olympique qui est arrivée à Tokyo dans un stade vide. C'est confirmé depuis hier. Les JO qui s'ouvrent dans deux semaines auront lieu essentiellement à huis clos. L'état d'urgence sanitaire est rétabli dès lundi dans la capitale japonaise jusqu'au 22 août. Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. Noël Le Graët l'a confirmé après un entretien hier avec le sélectionneur qui n'est donc pas sanctionné après l'élimination de la France en 8e de finale de l'Euro. Et puis le Tour de France, Pogacar toujours en jaune après la 12e étape remportée à Nîmes par l'Allemand Nils Polit. Au programme aujourd'hui, 220 km de plaine entre Nîmes et Carcassonne.
220 km, ça va être long l'histoire. C'est en direct sur RTL, vous le savez. Toutes les demi-heures ce soir, le débrief, le verdict de tout ça.